Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue pour la 23e de Quoique, l'émission qui fait ce qu'elle peut. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 25 février 2005, jour de la Saint-Roméo. Et en ce jour de la Saint-Roméo, acteur d'une des plus désastreuses histoires d'amour de tous les temps, avec cette pauvre Juliette, quel meilleur thème pouvions-nous choisir que l'amour ?
C'est vrai que ça tombe bien.
N'est-ce pas,
c'est bien foutu.
Le hasard fait bien les choses.
Non, c'est pas fait exprès. C'est le hasard qui fait bien les choses, comme bien vient de nous le dire.
Il est fort.
Oui. Elle a arpenté le monde entier ces derniers mois pour préparer sa chronique. Eh bien oui, mesdames et messieurs, Valérie va nous expliquer aujourd'hui comment draguer en langue étrangère pour emballer à coup sûr. Bonjour Valérie.
Bonjour.
C'est bien ça, hein, j'ai bien compris.
Oui, t'as bien compris.
Vous avez des règles pour les Suédois?
Non, j'ai pas de règles parce que j'ai un polichinelle dans le tiroir, donc je peux plus.
D'accord.
Ah, tu devrais penser aux copines.
Même s'il a lu 69 fois le Kama Sutra, il ne nous parlera malheureusement pas de cette grandissime œuvre illustrée. Il nous parlera de Comme si c'était moi, un livre d'amour sur le théâtre par Philippe Torreton. J'ai tout bon ?
Bah oui.
Merveilleux.
Faut que j'en rajoute ou...
Bah comme tu veux, tu le feras en temps voulu.
Oui.
D'accord.
Je t'ai envoyé mon sujet de chronique ou quoi?
Bah oui.
Ah merde.
Bah oui, bah il a neigé toute la semaine quoi.
Bah oui.
L'important c'est de participer, comme le disait Rocco Siffredi, célèbre acteur pornographique du XXe siècle après Jésus-Christ.
Ce que j'ai encore fait.
Mais Flo ne nous parlera pas de pornographie, sachant faire la différence entre le sexe et les sentiments. Elle va nous parler du livre de Jérémy, un film d'Asia Argentino, une grande et magnifique histoire d'amour.
Argento.
Ouais, c'est pareil.
Mais non, son père.
T'as mis Argentino parce que j'ai fait un copier-coller.
J'ai merdé dans mon truc. Ouh, mais enfin bon,
la honte.
De là à dire que c'est une grande histoire d'amour, enfin c'est, j'ai oublié de mettre les guillemets aussi peut-être. Enfin bon, vous verrez bien quand je vous parlerai du film. Oui.
D'accord. L'amour à la télé, l'amour devant la télé, sur la télé, derrière la télé, à droite, à gauche, dessus, dedans, c'est un sujet qu'elle connaît par cœur, Béa. Ça va bien?
Oui. Moi j'ai pas de place moi derrière ma télé. Hein.
Oui, mais ça se déplace une télé. Ou le mur, s'il faut.
Dans la cuisine. Dans la cuisine.
Quand oui, on a très envie de faire l'amour derrière la télé.
On trouve toujours des solutions. Donc voilà, donc on va parler d'amour. Mmh. C'est quand même bien, parce que d'habitude, on est plutôt graveleux et tout. On avait déjà fait une émission sur le sexe, hein, il me semble.
Donc là, on va essayer de s'élever.
Bah voilà, on va parler sentiments, tout ça. Donc, comme la dernière fois, on a fait une petite chanson magnifique.
C'était vachement beau, hein.
Hein, n'est-ce pas?
Ah oui.
Et bah,
dites oui.
Dites oui, même si vous n'avez pas aimé, c'est pas
mais,
grave.
Mais finalement, moi, je l'ai déjà oublié. Hein.
Oh, bon, alors ça, c'est pas de chance, ça revient assez vite.
Ah, hein. Bah, je trouve qu'au contraire, j'ai beaucoup de chance. Elle ne m'est pas restée dans la tête.
C'est une chanson qu'on a le droit de télécharger.
Oui.
Gratuitement.
Oui, c'est sous licence art libre, comme l'émission. Et tout ce qui s'y trouve. Donc vous pouvez en faire ce que vous voulez à condition de citer ces merveilleux auteurs, compositeurs, interprètes.
Et donc c'est de l'art aussi.
Aussi, mais libre. Donc c'est sujet à interprétation. Donc eh ben, ce mois-ci, on a encore une nouvelle chanson pour illustrer le thème, donc l'amour. Donc ça s'appelle Ma Blondasse. Les textes sont de Numa, enfin le... la musique de moi-même, ton verre. C'est, tiens, d'ailleurs, c'est vrai, je viens de me rendre compte que je me présente jamais. Ou que personne ne me présente jamais.
Parce que tout le monde te connaît.
Ah bah d'accord, on va dire ça. Donc la musique est de moi-même, que tout le monde connaît.
Je connais des gens qui te confondent avec Arthur, le présentateur.
Le roi de la radio.
L'autre présentateur, je veux dire, l'autre.
L'autre,
on n'a pas le copie, la plagiat.
Voilà. Donc c'est ton verre, c'est pas Arthur hein, qui présente l'émission de quoique.
Voilà.
Mais lui, il se ferait payer. Hein.
En plus, oui, parce que moi, je ne vais pas payer cher, là.
Non.
Ouais, mais on rigole.
Ah bah oui.
Voilà, c'est l'essentiel.
Puis t'as une gratification quand même énorme.
Ah bah oui, avec ces milliers d'auditeurs qui me reconnaissent dans la rue.
Bon, Florence Béat et moi, torse nu pendant les émissions.
Oh là 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 là.
Je parle pas de Numa.
Non.
Je l'ai aussi, voilà. Mais bon.
C'est magnifique tout ça. Donc ne nous dispersons pas. Donc alors, la chanson de ce mois-ci... Le nouveau tube de l'hiver encore, hein. Vous allez vous en rendre compte par vous-même. Donc ça s'appelle La Blondasse, donc texte de Numa, musique et interprétation de moi-même. Et donc,
fais péter.
Allons-y. Ma blondasse, ma chaudasse, ma cagnasse, ma pétasse, ma grognasse, ma fadasse, ma radasse, ma poufiasse, ma petite chiasse, ma connasse. Ma salope, ma cocotte, ma grosse chope, ma cyclope, ma grosse loque. Ma grosse cloque, ma varlope, ma petite clope, ma chochotte, ma petite chiotte. Ma louloute, ma petite croûte, ma choucroute, ma chouchoute, ma moumoute. Mon autoroute, ma glougloute, mon goutte à goutte, ma ragoutte, ma filoute. Ma petite pute, ma cahute, ma turlute, mon parachute, ma petite flûte, mon scorbut, ma petite brute, ma dispute, ton hypercute, mon occiput. Blondasse, chaudasse, cagnasse, pétasse, grognasse, fadasse, radasse, poufiasse, petite chiasse, connasse. Salope, cocotte, gros chope, cyclope, grosse loque, grosse clope, varlope, petite clope, chochotte, petite chiotte. Louloute, petite croûte, choucroute, chouchoute, moumoute, autoroute, glougloute, goutte à goutte, ragoutte, filoute. Petite pute, cahute, turlute, parachute, petite flûte, scorbute, petite boute, dispute, hypercute, occipute. Le temps que l'on se connaît, les mots d'amour sont tous surfaits. Je t'aime.
C'est
voilà.
Beau, hein.
N'est-ce pas, hein.
Ah, vivement l'album.
Qu'est-ce que c'est dansant, ouais. En plus,
hein, n'est-ce pas, hein.
D'après ton dictionnaire des rimes.
Ben non, j'ai
parce que je ne vois pas ce que l'occiput vient faire là-dedans.
Mais si, tu verras quand tu l'auras entendu 20 fois.
Une varlope non plus.
Paf.
Oui, mais non, plus. Mais en fait, j'ai fait ça avec ma tête.
Ah, c'est pour ça que t'as des hop qui riment avec des hot.
Ouais. Ben oui, mais ça, c'est parce que c'est plus facile.
Vous imaginez ma surprise quand j'ai reçu le texte.
En fin de compte,
t'aurais pu faire pareil.
Oui, je me libère pour que je lui demande.
J'avais un petit peu oublié, mais avec le recul, maintenant, faut assumer, en fait.
Oui, non,
en
mais...
En fait, on fait n'importe quoi.
Ah, bah, y a plus que ça, ouais, assume.
Mais la musique est sympa, c'est d'influence disco, quoi, ça se sent tout de suite.
Disco des îles.
Disco pauvre.
Et donc, pour rassurer tout le monde, la prochaine est en route.
Oui, elle est en route, il y a déjà des idées, tout, le texte est écrit... Donc ça va être largement aussi bien.
Oui, puis j'ai lu le texte, c'est beau.
Oui, moi aussi je l'ai lu. Hein. C'est une chanson à texte et sans texte. Il y a deux lectures. Enfin, vous verrez ça le mois prochain. Donc, si avec ça, il y a des gens qui téléchargent encore, on a du pot. Quoi.
On trépigne la patience.
Trépigner.
Premier au top 50.
À propos,
l'album.
Je voulais faire une remarque préliminaire.
Ah, les préliminaires.
Je voulais signaler que j'étais arrivée avec une demi-heure de retard et donc pour que les auditeurs aient les conditions du direct, quand ils téléchargeront l'émission, j'aimerais bien qu'ils attendent une demi-heure avant de l'écouter.
Ouais, et qu'ils fassent les essais micro aussi pendant avant de commencer.
Parce que voilà, il faut qu'ils prennent l'apéro avant aussi.
Ah bah aussi, ouais. Et vu qu'ils fassent un maximum de clopes
avant
que Valérie arrive, parce que bon, voilà. Donc eh ben, nous allons commencer, et top, c'est parti. Eh bien Valérie, tu vas nous expliquer alors comment on drague à l'étranger. D'ailleurs moi je suis allé à Maastricht récemment, donc en Hollande, c'est à l'étranger même si c'est en Europe. Et j'ai essayé de draguer, c'était une catastrophe.
Mais non, mais c'est
je pense que l'année prochaine, ça ira beaucoup mieux.
Ika ou Vanjier.
Non, mais c'est pas grave, c'est pas possible. Ce que David t'a pas dit, c'est que si moi je dis ça, le mec il se met à regarder partout et il voit rien, quoi. Si tu veux, puis il avance, puis il entend aïe, c'est parce qu'il m'a marché dessus, il m'avait pas vu.
Oui, mais là normalement c'est ton verre qui drague.
Oui.
Oui, oui, bah, c'est lui, pareil, on le voit. Les filles, c'est la même chose.
Non, parce qu'il y a Ika ou Vanjier et Ika ou Vanjou. Donc je pense qu'il y en a un qui est pour les filles et l'autre qui est pour les garçons, mais je sais pas lequel est lequel.
Ça veut dire je t'aime.
Oui.
Oh. Ah bah c'est élégant.
C'est la première fois que je te dis je t'aime, je crois, comme ça,
ouais,
devant des millions d'auditeurs.
Mais c'est ce que j'aurais dû dire à Suzanne.
À Suzanne, oui, je pense qu'elle aurait beaucoup aimé.
Oh bah oui.
Donc Valérie, vas-y, fais-nous rêver.
Donc voilà, je vais vous apprendre à dire je t'aime dans beaucoup de langues, le plus de langues possible. Ça peut toujours servir partout où on va. Bon, je vais d'abord tester un petit peu vos connaissances, voir si vous savez quand même le dire dans 2-3 langues. Donc en anglais, c'est facile. Hein.
Oh, ouais. I love you, I love you.
En espagnol.
Te
quiero.
Oui.
Ouais, bah oui,
ce qui veut dire je te veux. C'est la langue la plus directe pour dire ça, hein, quand même.
Oh oui, chaud, oh oui.
Et quand on veut dire je te veux, qu'on traduirait par je te veux en français, ben en fait, ben, il faut le dire avec une autre intonation. En espagnol, c'est tout ce qu'il y a. En italien, facile.
Ti amo.
Ti amo. Oui, on peut aussi dire ti voglio bene.
Oh.
Alors, en allemand, facile.
Ti amo, ça fait pas un peu rural?
Ich liebe dich.
Oui, très bien. Bravo, Béa. On voit que t'es une grande blonde.
Et pourtant, j'ai pas fait allemand, moi. Hein. C'est la seule phrase que je connais.
Balles, pareil.
Et en russe?
Nazdrovi.
Malouchka.
Je l'ai mis russe parce que Darty a fait russe, lui. Alors,
Malouchka pour le.
Yati e bia liubiu. Pardon. Yati e bia liubiu.
Ah.
Ouais.
Bon, alors ensuite, sinon je...
C'était ça qu'elle me disait, alors.
T'as pas compris.
C'est dommage que t'aies pas compris, hein.
Ben non.
Il va falloir que vous me disiez un petit peu le genre de femme que vous aimez pour que je vous dise les garçons, puis ensuite les filles, je vous dirai aussi pour le genre d'homme que vous aimez. Est-ce que vous aimez les grandes blondes?
Bah, oui, aussi, oui.
Les grandes
aussi,
blondes, par aussi, exemple, aussi. Bah, du danois, alors. Jig Esther Dig.
Dig?
Jig Esther Dig.
Ça, c'est la digue du Nord, c'est en Hollande, c'est pas au Danemark.
Bah, non, bah oui, mais Jig Ekster Dig, c'est du danois pour donc, dire je t'aime.
Jig Ekster Dig.
Oui. T'aimes la bière, Numa?
Oui.
Alors, drague une irlandaise?
Oui.
T'aimes in Graliat?
T'aimes in Graliat?
In Graliat, je crois que c'est.
Ouais, t'aimes in son grâce ou un truc comme ça.
T'aimes le pape, Florence?
Dépêche-toi.
C'est très simple, ça ira vite. Faut pas c'est Théamo.
C'est sûr, Ma.
Théamo, en latin. S'il faut savoir parler en latin pour draguer le pape.
C'est vrai.
Non, je te verrai bien, je sais pas moi. Ah, un petit marocain. Canbic, il faut lui dire.
Canbic.
Ouais.
Canbic.
Canbic, ouais.
Donc si ça n'avait pas été vous marocain, on aurait pu faire de mauvaises blagues avec la bique.
Il faut du grand avec Béa.
Non, on peut pas se permettre.
Avec qui il me voit, mais moi je vois bien avec qui je pourrais être.
Avec un Suédois?
Ah bah oui.
Par exemple. Alors ça ferait Jaial Scardi.
Je vais peut-être prendre un italien alors, je retiendrai mieux.
Théamo, retiens bien, Théamo.
Un tchèque. Miloujiti.
Miloujiti, ah c'est joli ça.
C'est facile.
Ouais, ça c'est joli.
Alors pour l'exotisme.
C'est pas Milou le chien plutôt?
Ouais, en créole, t'as pas en créole?
Si, j'ai, mais j'allais faire la France après. Pour ceux qui voulaient rester en France, mais en hawaïen j'ai aussi.
Ah ouais.
Aloha, waouh, ya, oi. c'est Aloha, waouh, yaoi.
C'est toujours un rallonge.
Tu me marches sur le pied.
C'est compliqué
j'ai
de dire je t'aime.
J'ai même le japonais, parce que... Mais alors le japonais, j'ai 6 trucs différents, et alors franchement, je ne saurais pas différencier les uns des autres, sauf que ça ne s'écrit pas du tout pareil. Et ça ne se prononce pas
ouais,
du tout
pareil.
Ouais,
à mon avis, ouais, c'est dans la prononciation.
Mais par contre, il paraît que les japonais, ils sont petits, mais bon, enfin... Ils ont des membres qui valent le coup, quoi. Et donc, on peut dire Kimi o Aishiteru, ou alors on peut leur dire Aishiteru, c'est plus rapide déjà, ou Shu Shiteyo, ou Orwa Omae Yasukida.
Il faut avoir le temps, quand même.
Ça dépend du degré de respect, c'est ça
bah, c'est j'ai encore plus long.
Ah.
Watashi wa Anata ga Suki desu.
C'est pas très élégant.
Et ça veut dire je t'aime, ça.
Watashi,
je crois.
Ça se trouve, t'es en train de dire une grosse connerie.
Je rassure.
De
toute
façon, ça veut
auditeurs.
Dire je suis, c'est j'aime ça. En fait.
Alors, j'allais y venir.
Parce que ça fait la même longueur. Hein,
si vous voulez, je vous
phrase.
Donne.
Ah ouais.
Si vous voulez, je vous donne mon lexique.
Oui.
Parce que pour pas vous faire tromper par des faux amis que vous pourriez rencontrer.
Vous allez en Tchéquie,
puis il y a un Tchèque qui vous dit oui, en fait, pour dire je t'aime, il faut dire, il vous sort une phrase, et en fait, la phrase, elle veut dire je suis monté comme un âne. Bah, vous êtes mal après devant la fille. Hein.
Ouais, mais surtout. Bah,
pas forcément.
Vrai,
hein.
Non, sur, ça va.
Si c'est ouais. pas vrai, oui, c'est gênant, mais sinon.
Elle risque de rire, c'est tout. Hein.
Bon, c'est vrai que je m'étais dit que vous pouviez peut-être vouloir draguer en France aussi, tout simplement.
Ouais, mais ça, on sait faire.
Ah bon, tu sais faire? Tu vas en Bretagne, tu veux draguer Béa, comment tu dis?
Je vais à Poitiers. Enfin, moi, c'est une autre histoire.
À Poitiers, elle parle Poitevin. Mais remarque, en Poitevin, je sais pas comment on dit, mais...
Ça, tu demandes à Numa, il doit avoir une idée.
Bon, on dit pas.
Ah, on dit pas, on passe directement.
Tout se passe dans le regard à Poitiers.
En breton, on dit Dagarout Aran.
Dagarout Aran?
Ouais.
Ça veut dire je t'aime.
Ouais. En catalan. Moi, ça, je savais parce que je suis un peu catalane. Alors. C'était facile pour moi.
Et alors?
Alors, on dit t'estime molt.
T'estime molt, ouais.
T'estime.
Ouais. Molt, c'est pas très flatteur.
Molt, ça veut dire beaucoup. Mais si on dit juste t'estime, ça veut dire oui, je t'aime bien, surtout. Alors, c'est pour ça qu'il faut mieux mettre molt.
Ah, il faut rajouter.
Rajouter molt.
Estime, c'est. Bah, c'est pas l'estime, c'est aimer, vraiment. En catalan, c'est comme ça. Si on va en Corse, c'est important. Parce que alors les Corses, si vous leur parlez en français, vous avez aucune chance de tirer votre coup, hein, les gars.
Et puis si tu rates ton truc...
Les filles non plus. Alors pour une fille, si elle veut parler à un mec, elle lui dit « Ti tengo caro ». Caro, je pense d'ailleurs. Et si c'est un mec qui veut draguer une fille, il dit « Ti tengo cara ». Et si c'est une fille qui veut draguer une fille, elle dit « Ti tengo cara » aussi.
D'accord.
Et si c'est un mec qui veut draguer un mec,
« Ti tengo caro ». Et alors, les langues qui font rêver, quoi, où on se dit tout de suite qu'on a vraiment envie de draguer dans cette langue-là, par exemple en alsacien.
Ça
doit être bien.
Ichoan dischir, ou un truc comme ça. Ou...
C'est la première à droite.
Je vais prendre une bière avec ma choucroute.
C'est pas plus brutal que le danois tout à l'heure.
Ah non, non,
suédois.
C'est pas plus brutal. Mais on s'étonne pas qu'après on drague plus en Corse ou en catalan qu'en alsacien, quoi.
Enfin, je sais pas, déjà moi quand je drague, je dis pas je t'aime parce que sinon t'es balbarré.
Ouais, ça fait un peu genre demeurer quand même.
Alors en réunionnais, sinon en créole de la Réunion, on dit miemaou. Mais en
miemaou.
Ouais, miemaou.
Ah, c'est joli.
Parce que ou c'est pour toi, mi c'est moi, et a c'est parce qu'ils mettent une préposition, ils sont comme ça les réunionnais.
Ah bah
et
oui,
les autres créoles, je sais pas trop parce que j'ai vu des trucs, mais il y avait rien qui me. J'y croyais pas trop, je sais pas. Pas mon truc. En provençal, on dit tamé par contre. Hein.
En short.
Et avec des tongs.
Non, c'est bien aussi.
Et
c'est
alors
bien.
J'ai pensé à tout, je me suis dit peut-être que vous auriez envie de draguer aussi un Égyptien.
Une Égyptienne plutôt.
Une Égyptienne de l'Antiquité.
Oui,
parce
oula.
Que.
Oula. Égyptienne... C'est combien d'hiéroglyphes?
C'est ça en plus. Excellent. Parce que les Égyptiens de maintenant, je sais pas le dire, mais les Égyptiens d'autrefois, je sais l'écrire. Alors bon, comme c'est très radiophonique, je vais vous expliquer comment on écrit en hiéroglyphe. Je t'aime. Donc alors on dessine un espèce de traîneau du Père Noël. En dessous, on dessine une amande. À côté, un type de profil, forcément, hein, vous savez, comme d'habitude, hein, les épaules de face, le reste de profil, qui a la main à la bouche. Derrière, un autre type, mais qui n'a pas la main à la bouche, lui, qui a juste les deux bras pliés, vous voyez, comme ça, en fait. C'est beaucoup.
Ouais, je pense qu'il voit très bien, là.
Comme ça, là.
Ah ouais.
Pas comme ça, mais comme ça, d'accord.
Voilà.
Tout à fait.
Donc c'est comme
alors
ça
ensuite,
pour nos auditeurs.
Alors ensuite, il y a un dessin. Je sais pas trop si c'est des boucles d'oreilles avec des cerises ou
corde.
Si c'est un préservatif ou alors une. Moi, je pensais que c'était un préservatif.
Une corde hein. Pliée en deux avec des boules au bout.
Ah bon, bah c'est. Bon, alors vous imaginez.
J'ai appris l'égyptien ancien.
Et en dessous, ce qui représente le fait que l'amour a. Est arrivé à son terme, c'est qu'en dessous de cette espèce de bite, on représente des petits flots. On représente des petites vagues qui représentent donc le liquide qui est sorti.
D'accord.
Voilà. Mm-hmm. Et avec tout ça, vous dites je t'aime.
Eh ben, et ça se prononce comment? Ah.
Et ben en fait, on n'a pas d'enregistrement
de profil.
De profil, ouais.
Ça se prononce de profil.
Et pour les sourds muets qui nous écoutent, s'ils savent pas dire je t'aime, je peux leur dire aussi.
Vas-y.
On dit comme ça.
Ah, bah, ah, c'est drôle. Ça c'est un signe des ardos.
Oui, alors c'est incroyable parce que oui, alors je vais expliquer. Donc,
alors, explique un petit peu ton signe.
Alors donc on a la main pliée sauf deux doigts qui sortent, à savoir oui, l'index et l'auriculaire. Donc c'est le signe qu'on fait quand bah,
quand on est dans un concert de métal.
Ah bon, quand on est dans un concert de métal
oui,
aussi
c'est
pour
c'est
dire cocu, vilain cocu
ouais,
aux gens.
Oui, c'est les cornes de je sais plus quelle bestiole, ouais.
Voilà, donc il y a les entendants croient que ça veut dire cocu, mais pour les sourds muets, ça veut dire je t'aime.
Bah,
donc, il risque d'y avoir des. Ça doit être dur pour les mariages mixtes, quoi. Il risque d'y avoir des mésententes. En braille, je vous dirai pas comment ça se dit parce que de toute façon, bah, les gens qui ont besoin de lire du braille, ils peuvent écouter la radio et parler
oui.
dans toutes les langues. Hein. Donc voilà.
Alors,
sinon, ça se dit
peau,
avec
quoi.
Plein de points hein, en braille. Hein. On met des points un peu partout, forcément, c'est du braille.
Alors, c'est intéressant.
Parce qu'après, sourd et aveugle, c'est pas de peau, quoi.
Non, c'est pas de chance.
Mais sinon, on leur parle en leur tapotant sur la main. Mais alors là, je sais pas comment faut tapoter sur la main pour dire je t'aime.
Par contre, on peut se foutre de leur gueule, ils nous entendent pas.
Oui, c'est vrai.
Je pense que tu peux passer directement à l'acte, ils comprendront.
Oui, c'est ça, je pense qu'il y a d'autres façons de faire que de tapoter sur la main. À ce moment-là, faut peut-être directement tapoter ailleurs.
Voilà.
Et alors, je voulais enfin signaler un site internet vraiment très intéressant. Et je voudrais d'autant plus le signaler que ça fera plaisir à mon mari qui est Darty aussi, donc un chroniqueur de Quoique que tout le monde connaît, tous les auditeurs de Quoique. Il existe donc un site qui répond à la question « Peut-on dire je t'aime avec des logiciels libres ?»
Ah, ça doit être intéressant.
C'est... Non.
Donc je donne l'adresse hein, que j'essaierai de penser à réécrire aussi sur le site. www.framasoft.net Framasoft qui s'écrit FRAMASOFT slash hein, le framasoft.net slash article 2010.html. Et il y a comme sous-question à cette question-là qui est vraiment qui est débattue, qui est très intéressante. Il y a des il y a des références bibliographiques intéressantes et tout. Comme sous-question, il y en a une qui est peut-on ouvrir son code comme on ouvre son cœur? Et oui, voilà.
C'est mignon.
C'est un monsieur qui est mathématicien et aussi amoureux et aussi qui fait un peu d'informatique et tout, qui répond à toutes ces questions. Et je pense qu'une fois qu'on sait déjà dire je t'aime dans toutes les langues, on peut encore se poser la question de savoir si on sait le dire en logiciel libre. Voilà.
C'est sûr.
Quelqu'un en a la réponse. Je vous la donnerai pas. Hein.
Non, bah on ira voir sur le site.
Voilà, c'est court, hein, mais c'était dense. Hein.
C'est court, non, c'est très bien, très bien. T'as dépassé.
Voilà.
De 2 minutes 27. Enfin, 28, 29, 30. Enfin, là, c'est moi qui dépasse.
Non, oui.
Donc, eh bien, quand Numa aura posé son verre, on pourra faire un tonnerre et s'essuyer la bouche. Un tonnerre d'applaudissements pour Valérie. Bravo. Bien, maintenant, nous allons passer à Numa, qui
bien,
va
oui.
nous parler de littérature et de théâtre, par l'intermédiaire d'un illustre acteur de théâtre français.
Et de cinéma.
Et de cinéma aussi.
Et auteur de littérature.
Oui.
Mais il a écrit un livre.
Bah, c'est déjà pas mal, moi j'en ai pas écrit, moi, personnellement.
Bah oui, mais lui, si.
Bah voilà.
Voilà.
Sinon, t'aurais rien à dire, Numa, s'il avait pas écrit de livre.
Je peux me démerder.
Il aurait parlé du Kama Sutra.
Il aurait parlé de Claire Chazal.
Ben
ah,
t'es là-bas avec ton micro.
Alors il s'est passé un truc extraordinaire parce que Béa n'est plus autour de la salle. Et elle le parle
table,
quand même.
Elle est autour de la salle, justement.
Mais autour de la table.
Elle est autour de la salle. Oui.
Bon,
est...
je vais arrêter le muscat, je vais passer au rouge parce que ça va pas du tout.
Ah bah non, donc, faut arrêter le.
Je crois qu'elle est envoyée spéciale dans les toilettes. Oh,
non, je crois qu'elle
est envoyée spéciale dans le couloir, ouais.
Donc, Numa, vas-y, t'as de la chance en plus, j'avais pas encore démarré le chrono.
Oui, mais c'est que je savais pas trop comment commencer en fait. Pour
par le début.
Par le commencement du livre. Donc c'est un livre bah, déjà qu'il a écrit, qui s'appelle Comme si c'était moi. Mm-hmm. Qu'il a publié, donc il est sorti en 2004, ça doit être en mars 2004, si ma mémoire.
Presque un an.
Presque un an. On en a un petit peu parlé à l'époque, enfin dans les journaux, parce que bah, comme d'habitude, comme il a pas sa langue dans sa poche, il a un petit peu balancé sur la Comédie Française, mais en fait quand
j'en ai entendu parler effectivement.
Oui, mais à la lecture du livre, en fait, il balance pas sur la Comédie Française, il balance sur l'administrateur de la Comédie Française et sur certains individus, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'il remet pas en question une institution, mais les gens qui sont dedans.
Oui, il y a pas que la Comédie Française qu'on prend pour son grade, et puis c'est fait de manière assez drôle.
Oui,
moi,
oui,
j'ai bien
oui,
apprécié. Je l'ai pas lu, mais j'en ai entendu plein de passages. J'ai presque
oui, parce
tout
que
le
Flo a eu la chance, d'être à côté de moi pendant la lecture du livre. Donc,
oui,
c'est-à-dire, c'est-à-dire que je lui lisais les passages qui me faisaient marrer.
En fait, j'avais le temps de lire une ligne et j'entendais attends, écoute. Et hop.
C'est un petit
mais
peu
une
chiant.
Ligne d'un autre livre.
Oui, d'un autre livre. Oui.
Voilà, oui. Donc, il parle de son enfance, de comment il a découvert le métier d'acteur, qu'il aurait peut-être pu aussi faire inspecteur de police.
C'est bien aussi. Hein.
Ben, c'est bien aussi, mais manque de peau, il a été pris pour aller jouer ailleurs. Alors bon, il a fait une école pour jouer, c'est bien aussi. Il parle de la Comédie Française, il parle de Capitaine Conan. Quand même, vous connaissez au moins.
Ça l'a permis de découvrir au grand public.
Au grand public, ouais. Bah, donc de Bertrand Tavernier, avec lequel il avait déjà travaillé pour L626.
Oui.
7, non.
Il est quoi,
7.
Pourquoi il a aidé 627.
627, ouais. 627 excusez-moi. Toujours
ça
avec,
fait pas très sérieux.
Bah non, toujours avec Tavernier.
Attends, moi je suis resté au L5, je suis pas allé jusqu'à là. Donc
Bah, fallait y aller, c'était en 92. Hein.
Et le L52 aussi, c'est un médicament homéopathique contre la grippe.
Voilà. Et
personne n'a rien d'autre.
Pas de pub.
Et donc, en 2004, nous, avec Flo, nous sommes allés voir c'était l'équipier d'Yvon Le Guen, où on le voit, mais là on quitte un petit peu la littérature, mais c'était quand même un super film, avec quand même un méga acteur, même s'il a une tête de con, mais peut-être qu'il est breton. Je ne sais pas.
Ça mouche.
Non, c'est vrai.
Tu dis ça parce qu'elle n'est pas là.
Moi, je trouve mignon.
T'aurais-t-on ?
Ah, moi, je trouve pas mal. Ouais.
Ah non,
moi,
et j'aime beaucoup.
Et en gros, c'est un grand acteur. C'est indéniable.
Oui, et il écrit en plus pas trop mal, à part quand même, juste vous faire chier, je vais lire le poème exécrable qu'il a mis en ouverture.
Ah, tu dirais pas qu'il était nul.
Oui,
je le dirais, et après, tu serais surprise, enfin, la consternation.
Bon, ouais, non, parce que là, c'est vrai. Là, j'ai donné. Ouais, je suis désolé, j'ai donné mon jugement avant. Donc. Je fais un métier de terre et de lune, de fruits secs et de bombance, de plénitude et d'abstinence. Je fais un métier de terre et de lune.
Ça me rappelle une chanson, ça c'était quoi ? Ma connasse, ma blonde.
Ou alors j'ai demandé à la lune.
Ah non, il y avait plus de caractère.
Ouais, enfin bon.
Bah, c'est la musique. Hein.
Donc ça c'est l'ouverture, donc eh ben, il faut pas s'arrêter là, faut pas hésiter à aller un petit peu plus loin. Tu me
donc
le piqueras
moi,
plus tard.
Non, j'ai envie de dire au lecteur potentiel de commencer directement à la page 13 alors.
Oui, ouais. Voilà. Ouais, ça porte chance. J'ai oublié de dire que c'était publié au Seuil.
Et c'est vert foncé.
Ouais, bleu...
Ça existe
bleu
peut-être
canard.
Dans une édition de poche maintenant, non ?
Pas à ma connaissance, mais par contre maintenant ils balancent dans les éditions de poche assez rapidement, donc c'est possible. Mais je sais
mais
pas.
Il a bien balancé
à
la radio, il peut bien balancer dans une émission de poche.
Hein. Oui, bah oui, il balance où il veut.
Voilà.
Voilà. Par contre, là, je vais vous faire un petit peu de lecture parce que histoire de vous donner goût. Oui, mais tu peux t'asseoir.
Allez, on met-les dans ses fils.
Il y a quand même des paragraphes palpitants, donc surtout quand il parle de sa ville natale qui s'appelle le Petit Quevilly.
À côté de.
Du Grand Quevilly.
Et qui se trouve à côté de.
Du Petit.
Ça doit être en Normandie, non
oui. Quevilly.
Oui, c'est en Normandie.
C'est en Normandie.
Ouais, c'est là-bas.
Donc pas loin de Rouen.
Bah oui, parce qu'il est né à Rouen.
Ah.
Voilà, tu nous dis sa ville natale qui s'appelle le Petit Quévilly et après tu nous dis qu'il est né à Rouen.
Oui, mais il est né à Rouen, mais il a vécu toute son enfance au Petit Quévilly.
D'accord.
Vous avez arrêté de me faire chier avec des fourberies quasiment de Scapin. Et hop. Donc un jour de fin de CM1, nous avons quitté le Petit Quévilly pour rejoindre le Grand Quévilly avec armes et bagages au cours d'un long périple de 6,2 km. Une atmosphère de pionnier régnait alors dans la famille, et c'est là que j'ai décidé de faire pousser mon acné. Runel Armstrong, un gars du coin qui jouait de la trompette les soirs de pleine lune, si j'en crois la légende, qui mène à angle droit dans l'avenue des Provinces, l'artère principale dont le seul intérêt était de vous emmener au théâtre flambant neuf, Charles Dullin, un gars du cartel qui avait un atelier dans le coin. Charles Dullin, un théâtre, ça devait faire partie du cahier des charges, au-dessus de tant d'habitants, faut un théâtre. Lui, c'était un rond, un cylindre coupé, c'était écrit dans le manuel, et n'hésitez pas à donner à ce lieu une forme originale. Rappelez-vous que les artistes sont des originaux et vont être amenés à s'y produire. Donc ça, c'est un petit exemple. Non, c'est pas super drôle. Bon, d'accord.
Mais en fait, c'est la cathédrale d'Évry qui est décrit, quoi.
Voilà.
Sauf que là, c'est un théâtre.
Mais voilà, un théâtre est toujours un problème pour une municipalité. Alors donc, d'abord, ça coûte cher. Ça ne fonctionne pas tout seul. Il faut trouver le personnel, quoique là, ça peut toujours donner la possibilité de recaser un ou deux cas sociaux dans l'entourage du maire. Donc tout le monde va la réclamer pour faire des soirées spéciales, ça va sûrement donner l'idée à des troupes de se constituer. Elles vont exiger des locaux pour répéter, et le théâtre en fin d'année pour y jouer leur bazar et forcément demander des subventions pour la saison suivante en prétextant que les gens ont adoré. Mais surtout, cela nécessite d'avoir une politique culturelle. Et là, ça se gâte, ça devient vraiment chiant, car il semblerait qu'il existe d'autres formes d'expression que l'opérette. Et Sardou ne peut pas venir tous les mois. Du coup, il faut nommer un adjoint à la culture et le trouver dans l'équipe municipale qui plus est. Donc c'est comme pour le ministère de l'écologie, hein, qui se dévoue. Allez, un beau geste. Donc voilà, ça c'était encore un petit passage. Donc on voit qu'il a quand même une vague idée sur la politique culturelle menée en France.
Bah oui, attends, c'était en quelle époque, ça?
Ben ça, il a écrit ça en 2004, donc en 2003.
Oui, mais
avant.
Quand est-ce qu'il était en CM1? Voilà. Parce que ça, c'est quand il était en CM1.
C'est quand il était jeune, parce que maintenant, ça s'appelle des salles polyvalentes.
Oui, mais ça...
Effectivement, les communes en demandent, et ça marche très bien.
Alors, ce que j'ai oublié de vous préciser...
Il est né en 65,
et là, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que ça, la partie que je suis en train de dire, c'est ce qu'il a été écrit en 2003. À peu près, évidemment.
Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Je trouve qu'il crache dans la soupe. Hein.
Non, pas forcément. Mais bon, après, chacun juge. Mais en tout cas, c'est très bien écrit, c'est super rigolo.
Oui, c'est.
Mais après, je le rattraperai après.
Mais ça parle pas d'amour pour l'instant. Hein.
Mais si.
Bah si, son amour pour le théâtre. Enfin, pour l'instant, justement, on le voit pas trop parce que
ça
on a l'impression
vient,
qu'il a
reçu encore.
Ah, mais tu vas devoir lire tout le bouquin quand même.
Mais il
a coché plein de pages. Merde.
Oui, mais ça, c'était au fil de ma lecture. Il y a des trucs personnels dont je parlerai pas. Enfin, voilà. Donc, qui dit théâtre dit lieu qui ferme tard. Donc ça, on l'a remarqué aussi. Hein, des lieux qui ferment tard ou qui vont le réclamer. Donc des cafés, des bars, des restaurants. Donc du bruit, sûrement après 22h. Voire 23.
Oh, le drame.
Et merde.
Et voilà, c'est des spectacles à aller voir pour donner l'exemple en tant qu'élu. Ah la merde. Et en un plus. Jour ou l'autre, il y en a bien un qui va tomber en sort de pièce gênante en finale de coupe de la Ligue Intertoto du monde des vainqueurs de coupe. Ça, c'est pas de chance. Hein. Et puis, c'est aussi des bouquets de fleurs avec des mots pour les vedettes avant et des paluches à serrer après. Un petit truc à dire entre deux bâillements, bouche fermée en prenant un air concentré quand la vedette explique que son spectacle est super bien accueilli partout. C'est chiant un théâtre pour un maire. Une rocade, c'est mieux. Voilà. Donc Charles Dullin ferme.
Un rond-point.
Ouais.
Ça dépend aussi, de la taille de la commune.
Tu rigoles ou quoi? Bon. Bien que je suis bretonne et que la Bretagne est championne du monde du rond-point par commune.
Ça dépend aussi si le maire a la clim dans sa voiture ou pas.
Ah bon?
Oui, c'est sûr, une rocade si t'as pas la clim dans ta voiture. Parce que t'es forcé d'aller faire des tours pour serrer les paluches aux automobilistes, etc. Et bon,
ah non, c'est dangereux. T'es pas bien, toi.
T'as drôle d'idée, toi.
Bah, je sais pas, au théâtre, ils sont forcés d'aller faire des tours.
Ah ouais, mais tu seras pas élu, hein.
Et donc, Charles Dullin ferme quelques minutes après le tombé de rideau. Donc, sans doute pour assurer les riverains, public ou pas, discussion ou pas. Allez, hop, dehors, le parking ferme aussi. Alors, si vous voulez rentrer en voiture, il faut faire vite. C'est l'endroit du temps du gardien qui l'emploi du temps du gardien qui décide, c'est-à-dire son TLZ.
C'est de la pub, ça.
Hein?
C'est de la pub.
Ouais, mais TLZ, c'est 2 francs.
Ça, c'est ouais. de la pub, ça.
Non, non, mais je vois ce qu'il veut dire, hein, par l'emploi du temps du gardien qui décide et le TLZ.
Ah, mais moi, je vais pas juger, moi. Moi, je,
ah, je me fais régulièrement foutre à la porte d'un endroit où il y a théâtre.
Alors, alors ensuite, là, là, on va passer un quand même. Non, parce que
l'amour.
Oui, à l'amour du, de son métier, à un moment donné où il a voulu essayer de faire changer quelque chose, c'était pour le théâtre en France, donc il s'est dit je vais aller prendre rendez-vous avec le ministre de la Culture.
Ah.
À l'époque c'était Jacques Lang.
Ah.
Ah, le ministre de la Culture.
Le,
quoi.
le
alors, brushing donc, teinté et tout.
Donc, ouais, c'est ouais. celui-là. Donc, grâce à l'intervention d'un ami, il a obtenu un rendez-vous de 30 minutes dans les salons du ministère. Alors donc là, il avait décidé, il voulait lui parler de trois choses à lui soumettre. Erreur fatale. Il ne faut jamais aller voir un ministre avec trois choses à lui dire, ni même deux, mais une et si possible courte, concise. Enfin bref, donc il arrive avec ses trois résolutions. Donc la première, c'est rendre, ben là je vais résumer parce que sinon c'est long. Donc rendre obligatoire une heure de théâtre.
Une heure de théâtre dans ta vie.
Ou plus exactement de prise de parole dans les grandes classes de primaire. Donc, c'est-à-dire de rendre par semaine une heure de théâtre, de prise de parole en groupe par semaine.
Bah maintenant, dans le programme scolaire en primaire, il y a une demi-heure de prise de parole par semaine.
Mais, eh bien, c'est très bien.
Ah bon, donc, quand j'étais petite, ça s'appelait l'éveil, on ne calculait pas, il y en avait tous les matins.
Bah, maintenant, il y a une demi-heure par semaine de prise de parole. Moi, ça me fait un peu peur, mais...
Ouais, ensuite, l'autre projet, c'était de faire publier une collection d'œuvres enseignées à l'école, mais c'est-à-dire toutes les œuvres qu'on s'est tous tapées, mais sans les commander, sans tous les commentaires qu'il y a avant et tout, que le texte.
Ah ouais, les Larousse, les classiques Larousse.
Oui,
là.
Tu te souviens avec tous les machins.
Avec les
hyper
questions
chiant,
en bas de page.
Mais ça
la
te dégoûte.
La guerre des méchants, oui.
Bah oui, ça te dégoûte. Enfin, ça te. Enfin, t'es pas obligé de les lire, mais c'est vrai que ouais, moi, je trouve pas que c'est une mauvaise idée ça. Et donc, sa troisième idée, après, c'était un truc assez rigolo, c'était d'organiser une lecture marathon de toute l'œuvre romanesque de Victor Hugo, donc en France, où ben on aurait lu l'intégrale d'Hugo.
Non.
Mais on n'est pas obligé de tout écouter non plus.
Ah non, non, mais ni de le lire. Hein.
Non plus.
Non, moi bon. Je trouve ça marrant. Après tout, sur la chaîne Histoire, on passe bien le prof C'est Papon en 40 épisodes.
Oui, bah ouais.
Pourquoi
ouais.
pas passer toute l'œuvre du
Non groupe. Plus.
Alors donc, ce qui est rigolo, c'est que donc, lui, bah, donc, là, il arrive. Puis,
par contre, moi, j'aurais fait l'œuvre théâtrale d'Hugo aussi derrière.
Ouais.
Tant qu'à faire.
C'était dedans, hein, je pense. Hein.
Ah, tu avais dit que l'œuvre romanesque.
Oui, non, mais c'est que l'œuvre romanesque, mais bah, au point où il en était. Hein. Ouais. Parce qu'il a dit pendant des jours et des jours. Et toute une nation en train de lire Victor Hugo, donc.
Non, pas toutes.
Non, je crois que t'as raison. Oui, si c'était que l'œuvre romanesque, ça serait des jours. Alors ouais. que si on rajoute l'œuvre théâtrale, ça fait des jours et des jours.
Ouais.
Et des nuits.
Bon. Voilà. Donc là, il arrive face à Jacques Lang. Il propose ça et il conclut par donc Jacques Lang a tout écouté attentivement. Et il m'a dit en souriant, prenez le pouvoir.
Oh, pas bête.
Pas bête, hein. Il a de l'humour, le Jacques Lang. Hein.
Bah, c'est prendre le pouvoir pour trois trucs comme ça. Enfin, je sais pas.
Mais non. Ce qu'il voulait dire par là, c'est-à-dire, ça veut dire, il faut en plus faire une explication. C'est-à-dire, c'est impossible, mon pauvre garçon.
Oui, non, mais j'ai bien compris.
Vous rêvez, on peut pas. Si vous voulez le faire, faut prendre le pouvoir, hein, parce que sinon, moi,
ça
je
me paraît un peu dérisoire comme mesure. C'est-à-dire, on fait. Enfin, je sais pas, on fait des tas de trucs de ce genre-là, ça intéresse qui ça veut intéresser.
Oui, mais pour lui, ils sont pas assez généraux, ils font pas partie, c'est-à-dire que c'est des trucs ponctuels, des essais à gauche, à droite, mais qui sont rarement concrétisés au niveau national. C'est-à-dire qu'en France, on fait beaucoup d'essais.
Je sais pas, je trouve que c'est... C'est forcé.
C'est pourtant pas le pays le pire au niveau culturel.
Non, déjà,
la France et le soutien de l'État par rapport à sa culture.
Ça dépend où t'es,
Non, mais pas par rapport au théâtre en fait.
Non, puis ça dépend où t'es. Moi j'ai une très très mauvais souvenir de ma primaire, de ma petite primaire où j'avais des profs qui étaient très très bornés, très fermés. Il a vraiment fallu que j'attende le CM1, CM2 pour tomber sur des gens un peu plus ouverts d'esprit. Mais je peux te dire que mes premiers profs ont cassé des élèves et ont fait de l'échec scolaire dès les premières années.
Ouais, mais enfin, moi je trouve que quand même la France est le pays où la littérature française est la plus riche, par exemple.
Ouais, aussi, ouais.
Ah, bah oui, aussi, ouais.
Même pour ce qui est du théâtre français, d'ailleurs.
Ouais, le théâtre français est très bien représenté en France, hein, par rapport à ce que tu peux en voir aux États-Unis, par exemple.
Bah ouais, hein.
Il n'y a quasiment pas d'écrivains de théâtre français aux États-Unis.
De quoi il se plaint, cet acteur gauchiste.
Bon, c'est vrai
je le crois pas.
Donc, tu veux pas nous lire le passage rigolo, il nous raconte ses élèves, façon à ses élèves, quand il nous fait sa pièce avec son épée qui dépasse, qu'on essaie de piquer et tout.
Ah, ça.
Donc, c'était rigolo, ça.
Ah, donc ça, c'était. Donc c'est dans une scène.
Ça, tu nous fais un peu une genre bande-annonce à l'américaine, tu mets tous les meilleurs moments, on connaît déjà toute l'histoire et c'est
différent. Non, pas du tout.
Oh, bah ça manque de rythme.
Ah bah, ils font mieux que moi.
Attends, franchement,
à la fin,
on sait
ça
que...
va courir et tout, ça va parler.
Donc vas-y.
On sait qu'au début, il est en Normandie, il est au CM1 et à la fin, il est acteur hein, quand même, hein, avec tout ce que tu
bah,
veux
oui.
dire.
Bah oui.
Et qu'il a vu Jacques Lang au milieu, donc quand même.
Voilà.
Ça limite un petit peu l'intrigue.
Ouais, mais ils te disent pas si à la fin du livre, il meurt ou pas.
Non, on sait pas. Donc ça, c'est. Mais c'est page 32. Donc ça, c'est quand il est au petit Kevili. Donc, bah, où ils vont jouer. Voilà, donc ça commence par « En attendant, nous avions la ferme intention de jouer notre Georges Dandin devant ces hérétiques. Il y avait des mains qui passaient sous les rideaux de coulisses avant scène pour essayer de piquer mon épée avant mon entrée en scène dans le rôle de Clitandre. Clitandre PD, bien sûr. C'est comme ça qu'ils ont compris mes tentatives d'air noble. Donc pendant la nuit du dernier acte, ces pauvres titous avaient peur et nous le disaient. Ceux qui n'avaient pas peur du noir nous faisaient les crapauds et les grenouilles. Ils voulaient voir Angélique à poil et le lui disaient aussi. » Quant à Georges Dandin, il faisait remarquer qu'il était complètement con de se faire avoir comme ça par une gonzesse. Le message était passé. Et tous de se dire après, comme un cœur d'otage libéré encore en plein syndrome de Stockholm, oui, mais s'il y en a eu un qui a suivi et aimé, alors on a gagné. Donc en fin de compte, c'était magnifique.
Ouais. Merci Flo.
Mais ouais, non, mais ça te rappelle idée. Rien, ça te rappelle pas des moments
ça
où.
Ça sera imputé
traîné...
au temps de ta chronique.
Ça te rappelle pas un moment où tes profs t'ont traîné comme ça au théâtre et personne ne suivait, personne n'en avait rien à foutre et on trouvait tout ça super chiant.
Moi j'ai vu Jules César de Robert Hossein, de Shakespeare adapté par Robert Hossein, et ben ça fait beaucoup les deux en même temps.
non, mais en fait, ceux qui demandent le théâtre dont ils parlent, c'est pas celui qui est enseigné par des gens qui ont. Une certaine idée du jeu, mais qui est souvent fausse, c'est un théâtre de vérité. C'est-à-dire que pour quand on joue, il faut essayer d'être vrai. Mmh. Et c'est pas ce qu'on.
Là, faut pas jouer.
Ben si, imbécile. Non, c'est-à-dire que c'est les profs qu'on a eu, moi que j'ai eu au lycée ou au collège, les profs de français qui ont certaines idées, puis qui vont dire, il faut dire un texte comme ça ou comme ça, alors que
maintenant
il faut
dire.
Mais un prof
de théâtre va faire la même chose.
Ben non.
Je sais pas, je vous comprends pas. D'un côté, vous tapez sur l'école parce que.
On tape pas sur l'école.
Parce que, enfin,
t'as
en gros,
pas entendu.
Parce que les profs vont dire ça, ou ils vont brimer les gamins, ou ils vont pas les intéresser au théâtre. Déjà, d'une part, ils peuvent pas
c'est
tout
pas,
faire, et
puis
ils peuvent les intéresser au théâtre par le théâtre qu'ils aiment, et qu'ils ont une certaine façon de le présenter.
C'est pas ce
point
qu'il
barre.
A dit. Mais
et
c'est...
après, effectivement, on va, les profs vont, ou l'école va amener les gamins à aller voir une pièce de théâtre, que effectivement, 95% des gamins vont trouver chiante, mais au moins, ils ont fait les d'aller voir une pièce de théâtre.
Mais
il faudrait
c'est
savoir
pas
ce que vous
dit.
Voulez.
Mais, c'est pas, mais il parle du fait que c'est bien souvent mal fait.
Et lui, il a la vérité, la vérité absolue, il saurait comment faire.
Non, parce que lui,
il est gonflé quand même.
Ce qu'il reproche un moment dans le bouquin, si tu veux, c'est ça. Si tu veux, c'est que moi, quand tu allais au théâtre, rappelle-toi, il y avait donc toute cette préparation, il fallait étudier, machin, etc., etc. Et en fait, le théâtre, à l'arrivée, ça devenait presque une punition.
Mais ils sont à l'école, les gamins.
Et le bac en contrôle continu, il en pense quoi, t'en raison.
Mais l'école ne va pas, en plus, inclure du divertissement. Faut pas déconner, non plus.
Mais c'est pas du divertissement, c'est essayer de donner envie, et c'est pour ça que lui il propose de montrer des choses. Et par exemple il parle de Charles Péguy le poète, et lui il dit moi ce que j'ai envie quand je dis Charles Péguy, c'est que les gens ils comprennent, ils se disent putain Charles Péguy c'est vachement bien, et qu'ils se disent pas putain c'est de la poésie, je comprends rien, ça
mais
me fait
c'est
chier.
Un passionné comme tous les passionnés, il est un petit peu utopiste et, sur l'école, il y a des choses qu'on peut pas faire à l'école,
bien
à partir
sûr,
du moment où c'est à l'école ça va pas plaire déjà à la majorité des enfants,
et il faut faire un choix en plus à l'école. Alors évidemment qu'on va pas parler de ceux qui va préférer, qui sont pour la plupart des illustres inconnus. Enfin oui, on va voir les classiques, oui effectivement pour la plupart des gamins ça va être chiant. Mais ça permet quand même d'avoir, après, quand on grandit et quand on a un minimum de cervelle, de prendre du recul, dire même si j'ai pas aimé ça, c'est pas pour ça que je vais pas aimer tel autre théâtre ou telle autre poésie. Enfin, je sais
bien
pas.
Bien sûr, mais
c'est
lui...
une ouverture. Et elle est faite,
mais
déjà.
Mais
c'est ce qu'il
te
dit là-dedans.
Il parle d'une mise en forme. Toi, t'es en train d'extrapoler sur un tout petit bout et tu as compris ce que tu voulais comprendre. Ce qui est différent.
Non, parce
lui,
que...
ce qu'il veut, c'est faire avancer. il a pas dit que c'était pas fait. Il a dit, moi je voudrais, parce qu'il a trouvé, moi c'est ce que j'ai aussi, quand j'étais gamin, tous les bouquins de théâtre, avec tous les lexiques, les machins et tout, moi ça tuait le théâtre. Et donc, lui ce qu'il veut, c'est ben, juste le texte. C'est tout.
Tu vois, mais c'est tu vas pas demander à un gamin de 3ème de s'en sortir avec juste le texte. Hein. C'est pas possible.
Mais c'est pas fait pour.
Évidemment
et lui,
qu'il faut amener.
C'est fait pour lui donner goût. Et quand tu commences.
Ah, mais justement, moi, c'est là que je ne suis pas d'accord. L'école n'est pas que là pour donner le goût. Il faut un travail concret après. Mais je suis désolée.
C'est pour donner un sens artistique. Et si tu veux donner envie aux gens d'aller voir
mais
des pièces de théâtre...
Mais l'école n'a pas pour but de donner envie aux gens d'aller au théâtre plus tard.
Et non,
c'est pas vrai.
Mais elle n'a pas non
c'est,
plus
c'est
le
de donner
but
des
de
outils
les dégoûter. Parce que elles ont l'école a dégoûté des gens de la poésie, a dégoûté des gens du théâtre en leur présentant des choses d'une manière. Quand tu commences à étudier une poésie en commençant par regarder, à démonter un texte, t'as pas envie. Moi, je suis désolé,
moi,
ça
je suis
me fait
d'accord.
Chier.
Je suis pas d'accord parce que justement, moi qui ne suis pas.
Moi,
très...
ce que je veux, c'est que des gens aillent dire des poèmes aux gamins. Tu vas dire des poèmes aux gamins. Tu vas en lire.
Et qu'est-ce qu'ils vont en retenir, les gamins? Moi, je suis désolé, je n'ai jamais.
Moi, je n'ai jamais aimé
la poésie. Et je n'ai jamais été accro à la poésie. Enfin, oui, j'ai jamais vraiment été attiré par la poésie. La seule fois où j'ai un petit peu apprécié justement de faire des poèmes, bah, c'est quand je les ai étudiés en première. D'accord, c'est parce que c'était au programme, mais n'empêche qu'on me l'a expliqué et là j'ai trouvé ça intéressant. Alors peut-être que je suis pas comme les autres, je sais pas, mais là j'ai trouvé ça intéressant parce que avant la poésie pour moi ça voulait dire récitation même si je ne comprenais absolument pas ce que je récitais, c'était des poèmes pour les gamins. Je ne savais pas ce que je récitais, mais je savais par contre que la finalité c'était aussi de savoir apprendre par cœur. Alors ça peut être chiant. Mais le but de l'école n'est pas de nous distraire, je suis désolée, c'est d'apporter des éléments
On ne parle pas de distraction. Moi, quand je parle poème, quand je pense poésie, je pense pas à récitation, je pense dire. Une récitation, c'est de la merde, ça sert à rien, mis à part faire fonctionner ta mémoire. Parce que quand tu récites quoi?
Mais c'est pas ce que je dis.
Moi, ce que je te dis,
les
ce qui
poèmes,
me paraît être intéressant,
petit, c'est pour la récitation, c'est pour entraîner la mémoire. Après,
eh bien,
quand
il
même,
faut
y a des
gens qui viennent dire,
qui
viennent dire un poème, un texte, un machin, un truc, qui viennent dire et pas réciter.
Mais ça, tu le fais en dehors de l'école.
Non, à un moment, c'est pas mal
mais
d'avoir quelqu'un.
Mais quand on le fait.
Mais pour apprendre quand même
à
trouver
la place des maths et du français.
Voilà. Ah bah c'est super.
Franchement, le français. Si on concluait en disant que bon bah heureusement que t'aurais ton et beau gosse quoi, puis voilà, c'est déjà bien pour lui.
Et puis bon acteur,
et en plus c'est bien écrit hein. Et
à part le poème du début.
À part le poème du début, et en plus
visiblement
ça. C'est peut-être parce qu'il a été dégoûté de la poésie à l'école qu'il écrit des poèmes.
Et en plus,
je me permettrais pas, hein, mais.
Donc maintenant que j'ai fait 20 minutes,
ouais.
Enfin,
bah, t'as
on
fait
m'a
la...
aidé hein, quand même.
Ouais, t'as fait là aussi la chronique de Flo en même temps.
Ouais.
Non.
Donc on passera directement à la fin parce que t'as fait aussi la chronique de Béa. Hein.
donc juste pour conclure, visiblement, le bouquin, il a fait polémique à l'époque, il fait encore polémique sur.
Moi, je polémiquais pas sur le bouquin parce qu'effectivement je ne l'ai pas lu et ce que tu me dis, je le vois comme je veux le voir, c'est pas vrai. J'en ai quelques extraits, c'est votre façon ou ta façon d'en parler.
Non,
c'est pas pareil.
Écoute, si on revient à l'histoire de la pièce de théâtre, quand il présente la pièce de théâtre au gamin, t'avais l'air d'être choqué, etc.
On va pas en revenir, merci. C'est pas grave.
Je trouve ça naze de descendre ce pauvre bouquin. Écoute,
mais elle a pas descendu.
J'ai pas descendu le bouquin. C'est pas vrai.
Il l'a quand même fait aussi a priori pour que ça fasse un tollé et ça fait un tollé même chez nous. Donc il a réussi.
Ça marche bien.
Il faut pas nous dire qu'il a écrit ça en disant mais tout le monde va trouver ça merveilleux. Personne
c'est
va monter au
fou,
créneau.
Hein. C'est pas.
Je pense pas.
Fou.
Donc
voilà. Ce que je voulais dire, c'est que
faut pas faire les enfants découvrent le monde. Et je pense pas que Monsieur Toreton.
Il y a un malentendu sur 2-3 passages qui ont été lus.
C'est pas grave. On laissera.
Tu l'as pas lu non plus alors.
Voilà.
Non,
en plus,
j'en ai eu un gros paquet quand même.
Donc on laissera les gens juger.
Donc voilà, donc c'est Philippe Toreton, comme si c'était moi, c'est publié au Seuil et visiblement.
Donc un livre qui fait réfléchir, polémiquer.
Ouais, bah c'est bien.
Polémiquer.
Oui, polémiquer. Hein,
pas poli. Il est polémiqué.
Polémiquer,
c'est pas la même chose.
Polémiquer plutôt aussi.
Voilà,
le chien.
Le chien, pas le copain, ne pas confondre.
Voilà.
Bon, bah, tu nous feras ton poème que tu iras dire dans les écoles plus tard. Mais pas tout de suite.
Je peux rajouter un petit truc, aucun rapport avec ça, mais par rapport à ce qu'on parlait avant.
Vite.
Non, mais en fin de compte, si ce sont un programme des acteurs qui vont dire des poèmes dans les écoles. Ça dure une minute par jour. Ils arrivent par deux, il y en a un qui arrive. Donc ils arrivent avec leur poème, ils le lisent, ils le posent sur la table, puis ils se barrent. Ensuite, le lendemain, ils reviennent.
Ils reprennent la feuille qu'ils
ont oubliée. Il y en a un qui dit bonjour, l'autre dit un poème, et puis voilà. Donc ça dure pendant 10 jours. Et ensuite, ils reviennent voir les enfants ou qu'ils ont dit les poèmes, puis après, ils en discutent. Et voilà, donc c'est juste.
Je trouve ça juste super démago et c'est très Jack Lang.
Non, je suis désolée, moi je trouve qu'on est quand même.
Pop, c'était la conclusion.
Non, c'est pas très Jack Lang, parce que Jack Lang il est.
Jack Lang est très démago.
Oui, mais ça, je vois pas pourquoi tu. Bah oui, mais
c'est pas parce qu'il a des bouclettes et qu'il est teinté à son âge qu'il est démago.
Non, il nous l'a prouvé quand même par autre chose.
C'est une idée de gens qui ont envie de faire passer leur bonheur.
Oui, mais ils peuvent le faire, mais enfin bon.
Ben, je vois pas pourquoi c'est démago.
Tu vas pas fermer la porte de l'école parce que tu trouves que c'est nul d'aller.
Je vois pas pourquoi.
Non, je ne trouve pas que c'est nul. Je trouve qu'il y a plus important. C'est tout.
Attends, c'est pas une minute dans l'école en allant lire un poème qui va foutre en l'air un programme scolaire.
Une minute.
Non, ah bah alors justement, une minute, ça va servir à rien. Je suis désolée.
Enfin bref. Sur ce, avant le poème de Numa à la fin de l'émission, parce que ça fait un bon point de conclusion.
Je sais pas, parce que visiblement ça sert à rien, donc je le dirai peut-être pas.
Oui, mais on n'est pas à l'école là.
Tu mélanges tout là.
Bah oui.
Donc, un tonnerre d'applaudissements, et Béa aussi. Eh bien Flo, ça va être à toi, ça va être à toi, du mal à
c'est
prononcer, donc tu peux te lâcher, tu peux parler maintenant,
bon,
vas-y,
d'accord.
Et il ne faut pas polémiquer.
Je ne reviendrai donc pas sur le bouquin. Donc je vais vous parler du livre de Jérémy, comme je te le disais dans la petite note en fait que je vous ai envoyée à tous, ça n'a rien à voir avec la Bible, enfin aussi plus ou moins, si ce n'est que l'auteur a une vie relativement mystique a priori, et qu'il s'appelle lui-même Jérémy, enfin Jeremiah. Le livre de Jérémy en fait est un film, c'est le deuxième film Manu, toi qui avais bien suivi l'affaire.
C'est le deuxième.
Voilà, d'Asia Argento. Et il est donc basé sur le livre semi-autobiographique de Jeremiah T. Leroy, à comprendre le roi en français. Enfin, ça s'écrit le roi, donc à supposer que ce jeune homme a des ascendants français. Et son bouquin s'appelait « The Heart is Deceitful Above All Things ». Donc voilà, c'est un best-seller américain, à première vue, et pas que américain. Ce jeune homme a commencé à écrire en 93, poussé par son psychothérapeute. Son premier livre s'appelait Sarah, du nom de sa mère, et le deuxième livre, donc, The Art is Deceitful Above All Things. Et donc, ce truc est tellement poignant, en fait, que Asia Argento a voulu s'attacher au film, à la réalisation de ce film. Et donc pendant le truc, on suit donc la vie du petit Jérémy, de l'âge de 7 ans jusqu'à 11-12 ans, un truc comme ça. Et à 7 ans, on voit donc le film commence sur un gamin qui est enlevé à sa famille adoptive, avec laquelle à première vue tout se passait bien, pour rejoindre une mère qui a à peine 20 ans et dont on découvre petit à petit dans le film qu'elle est totalement immature.
plus qu'immature. Sa mère se prostitue régulièrement pour se payer sa drogue. Abuse.
Est-ce qu'on peut,
hein? Ben, enfin, n'est-ce pas, hein? Abuse des hommes autant qu'il en passe et autant qu'ils peuvent la servir. Il présente son fils comme un petit frère, enfin bref, tout ce qui est possible et imaginable, comme une petite sœur, le déguise, enfin bref, joue limite à la poupée. Enfin, il arrive des choses assez effroyables à ce gamin. Enfin bref, c'est une descente aux enfers assez impressionnante pour le gamin jusqu'à l'âge de 11 ans, comme on le suit. Et ce gamin suit totalement fasciné, manipulé par le personnage de sa mère. Alors ça fait un peu peur, hein, comme film quand même quand on le voit, parce que c'est vraiment pas rose, c'est assez sombre, il n'y a pas beaucoup d'espoir, si ce n'est que comme on sait que le bouquin est le film est basé sur le roman autobiographique, on peut penser que l'auteur s'en est pas trop mal sorti puisqu'il est parvenu à écrire. Mais bon, le...
C'est pas toujours une bonne chose quand on se met à écrire. Hein.
Ouais, mais là, dans son cas, si tu veux, quand tu vois à quel niveau il descend, c'est déjà... ce qui est fou, si tu veux, c'est que, bon, on part d'un gamin qui a 7 ans, qui a l'air épanoui, enfin bref, qui est embarqué, qui est arraché à sa famille adoptive, qu'il considère comme ses véritables parents, qui se retrouve avec quelqu'un assez spécial quand même, qui ressemble plutôt à une espèce de cauchemar d'infirmière pute que tu verrais dans un film porno.
Ah.
Qui lui explique quelle est sa mère, quelle est sa maman, qu'ils vont beaucoup s'amuser ensemble. Et elle arrive, elle lui prend une assiette en carton format tigrou, enfin une tête de tigrou. Lui met des espèces de nouilles ressemblant vaguement à des spaghettis circulaires sortis tout droit de la boîte de conserve qu'elle lui balance dans l'assiette, un peu comme on servirait la bouffe du chien. Et en fait, ça lui vient même pas l'idée de passer ça au micro-ondes, quoi. Et elle arrive avec une cuillère et dit à son fils que, ah oui, ils vont vraiment s'éclater. Tu sens vraiment un problème d'immaturité. Et à aucun moment, les services sociaux ne vérifient s'il y a un problème ou pas avec le gosse. Enfin bref, ça commence de manière très, très, très bizarre.
Ouais, parce que pour l'instant, niveau amour, c'est plutôt calme.
Ouais, voilà, c'est très, très calme, quoi.
Alors moi, par contre, je donne des boîtes de conserve à ma fille. Enfin, donne des petits pots, quoi, des trucs comme ça, quoi.
Oui, mais tu les réchauffes.
Tu les ouvres.
Je les réchauffe.
Tu les ouvres, tu les réchauffes.
Tu les réchauffes.
Normalement, oui. Mais des fois, je lui donne une vache qui rit pas ouverte, hein, par exemple.
Ouais, mais ça, c'est pour qu'elle exerce ses petits doigts.
Non, c'est pour qu'elle l'ouvre pas. Pour qu'elle la mange pas.
Ça, c'est sadique. Hein. Enfin, bref, là, si tu veux, tu sens qu'il va y avoir une espèce de problème. Et puis, en plus, il y a ce gamin qui est complètement traumatisé, qu'on a enlevé à sa famille en lui disant, mais si, tu verras, tout ira bien. Enfin, bref. Et alors, il se passe quelque chose de terrible. Il est en voiture avec sa mère, qui à un moment s'arrête, lui explique que ses parents adoptifs, enfin ses anciens parents adoptifs ne sont que des monstres, que ce sont eux qui ont téléphoné pour le rejeter, etc., etc. Enfin bref, elle lui bourre le crâne, mais quelque chose d'abominable, quoi. Tout ce qu'on peut manipuler un gamin. Et à la
c'est
fin,
malheureusement classique.
Ah oui, et à la fin, l'acteur est vraiment génial. Hein, enfin, il y a trois gamins qui jouent donc le petit Jérémy à différents stades. Et le gamin regarde sa mère complètement terrorisée et lui dit un truc du genre « Je t'aime et je veux rester avec toi ». C'est vraiment... Et ça continue comme ça descend tout doucement. Il vit des trucs abominables. Pas longtemps après, elle embarque toutes ses affaires et il commence à partir sur une espèce de road movie à la recherche de drogue, de mecs, de fric. Enfin bref, un truc complètement fou. Sa mère croise un type avec qui elle se marie, pof, le lendemain, ils partent en voyage de noces, abandonnent le gamin dans la maison, ne ferment pas la porte à clé hein, pour que le gamin puisse quand même sortir, mais en lui demandant de n'ouvrir à personne, en lui promettant qu'ils seront de retour d'ici
il ferme la porte à clé.
Non, il peut sortir. C'est fermé de l'extérieur, il peut sortir lui-même.
Non, il ferme la porte à clé, mais il lui demande de fermer le verrou aussi intérieur.
C'est un peu comme ça me fait penser un peu à Maman, j'ai raté l'avion, un truc comme ça, là, un sublime film américain.
Oui.
C'est sur ça, un traumatisme de l'enfance.
C'est un remake.
J'ai pas bien vu le rapport.
C'est un remake.
Bah si, il se retrouve enfermé tout seul chez lui parce qu'il a raté l'avion, ce petit con.
Ah oui.
Non, là c'est un remake.
Oui, mais là il a pas raté l'avion.
Là il a pas vraiment raté l'avion. Là c'est sa mère qui lui demande qui le prie gentiment de rester là pendant que maman avec son ami vont en voyage de noces et de pas s'inquiéter parce qu'il y a donc du fromage dans le frigo.
En voyage de noces à Los Angeles.
Voilà.
Et peut-être du pain dans le placard. Hein. Elle peut pas affirmer, mais normalement il y a du pain dans le placard. Et là, on comprend tout de suite que le gamin a compris lui le degré de merde dans lequel il est enfoncé, parce que il ouvre le frigo. Effectivement, il y a du fromage. Il y a une tranche de raclette genre vache qui, enfin les raclettes qu'on trouve par sachet 10. Là, il y a juste une tranche. Il mord un bout et il repose religieusement dans le frigo. Enfin bref, l'histoire continue de bah, manière...
Ça lui apprend à gérer ses ressources.
Absolument, ah bah oui. À 7 ans, je pense que c'est un bon exercice de vie. Sur ce, le futur ex, enfin où l'ex à ce moment-là revient, il a été plaqué par sa femme qui a pompé tout son fric au moment de la lune
forcément,
de miel.
Forcément, il a plus de thunes.
Il a plus de thunes, donc elle se casse. Le mec revient, tombe sur le gamin... qu'il prend pour sa copine, enfin pour sa femme, dans un coup de folie, qu'il nous sodomise, qu'il nous embarque à l'hôpital, etc. Enfin bref, tout ça est filmé. C'est un peu raide, remuant, mais d'un autre côté, ça n'a rien de choquant ni de voyeuriste. C'est filmé.
Non, de voyeuriste, non, mais de choquant quand même.
Non, j'allais dire choquant, pas dans ce sens-là.
Oui, il n'y a pas de voyeurisme dans le tournage, mais par contre, évidemment, c'est choquant.
Voilà,
c'est pas gratuit, quoi.
Non, c'est pas gratuit. Moi, ce qui me faisait
peur. Non, mais il n'y a pas, on montre pas, on suggère et c'est très bien.
Moi, ce qui me faisait très peur, c'est on nous avait parlé du film avant qu'on le voie et on m'avait dit les effets spéciaux sont mauvais. Et alors, sachant ce qui arrivait au gamin, je me disais mon Dieu, mais quelle horreur. Alors que là, non, en fait, on ne voit rien du tout. On suit vraiment à travers les yeux du gamin la détresse qui peut habiter ce gosse.
Par contre, c'est pas exactement ce genre d'histoire que j'aurais choisi pour parler de l'amour. Moi,
j'allais le dire, je vois pas le rapport.
Mais non, parce que si tu veux, ce qui est terrible, c'est que cette mère qui est totalement immature, qui abandonne ce gamin, donc le gamin, en fait, le type se rend, enfin, et prend même conscience de ce qu'il a fait, abandonne le gamin à l'hôpital. Sur ce, le gamin est pris en charge par un psy, machin, etc. La famille de la mère arrive, récupère le gamin dans sa famille, et le gamin passe 3 ans là-bas. Pendant 3 ans, il est entièrement reformaté parce qu'il arrive à, on comprend pourquoi sa mère a pété un câble et a eu donc ce fils à l'âge de 15 ans. C'est une famille extrêmement religieuse, fermée. Enfin bref, et 3 ans plus tard, la mère récupère à nouveau son fils en train de prêcher devant une église.
Non, mais visiblement ça se passe bien. Si tu suces ton père, ça se passe bien dans la famille.
Ah d'accord, enfin, c'est encore une super famille.
Ouais, oui, c'est une famille religieuse.
Mais très religieuse,
toi, si
je
ça
très
se passe bien,
sous bien tout rapport.
Bon. Super, donc forcément, donc il va.
Il y a, en fait, il y a tout. C'est vraiment de pire en pire. Mais d'un autre côté, tu vois, il y a cette espèce d'attrait. Enfin, la mère qui confesse à son fils qu'à l'âge de 15 ans, quand il a failli naître, si son grand-père n'avait pas été là, il serait parti dans les chiottes. Si tu veux, petit à petit, il y a une espèce d'amour qui naît pour ce gamin. Et c'est plus fort qu'eux, quoi, si tu veux, entre ce que la mère a dit à son gamin et l'espèce d'intérêt qu'elle développe pour lui. Ils n'arrivent plus à se séparer l'un de l'autre. Il y a une espèce de complicité dans l'horreur, on peut dire, qui se développe. Et on continue de suivre cette espèce de périple jusqu'au moment où elle va quasiment où elle empoisonne limite son fils. Enfin bref, c'est assez glauque.
Et sinon, Numa, votre couple, ça va bien? Ça a l'air d'être la teuf quand t'as parlé d'amour quand même là. Hein?
Bah moi j'en parle mieux.
Ou l'autre, de quoi, du film ou de ça? Enfin bref. Enfin,
d'amour, bon, d'amour.
Parle dans ton micro, s'il te plaît.
Bon, j'essaie, je me raccroche à mon micro. Enfin bon, quoi, c'est vraiment. Ce qui nous a poussé à aller voir ce film, c'est que au début, on a vu la bande-annonce et ça avait l'air d'un film indépendant américain. Et c'est un film indépendant américain. Il est sorti au festival de San Francisco où il était en ouverture.
Non, c'est un très bon deuxième film. Ça prend au trip. C'est là ce que décrit Flo, c'est tout noir, mais en même temps, bon, on a quand même des moments où on se marre un petit peu, hein, parce
voilà,
que quand,
en fait,
quand on est dans le
petite lueur d'espoir qui traîne en permanence.
Et ça reste supportable,
non.
En fait. Non, il n'y a pas
non,
d'espoir.
Ça reste supportable.
Ça descend,
on sait
ça
pas
descend.
Pourquoi.
Mais il y a en fait, c'est comme si ce qui est extraordinaire, ce qui est génial, c'est qu'elle arrive
à
vraiment se mettre
la vie
continue, quoi.
Elle se met vraiment dans la peau du gamin. Enfin, quand elle a filmé ce film, au moment où Asia Argento joue à la fois le rôle de la mère et est en même temps un réalisateur du film, et en fait, elle est parvenue à vraiment, on se sent vraiment devenir ce gamin petit à petit, et un gamin qui malgré tout ce qui se passe a envie de vivre, enfin veut aller voir plus loin. Enfin, c'est incroyable quoi. On a pas en voyant non, au début
maintenant que
film,
j'ai vu le pire, il me reste plus que le meilleur à voir.
Non ouais, non, je sais pas. Bah, y a, en fait, il y a quelque chose. Si tu veux, même si la mère a quelque chose de terrible, que c'est une junkie, qu'elle se prostitue, etc. Il y a quelque chose de fascinant quand même dedans. Enfin, on n'arrive pas à s'en détacher. Et moi, dans les 10 premières minutes, je me suis dit, mais si ça continue comme ça, mais la salle va se vider et on va être dans les premiers à partir. Et non, finalement.
Mais on n'était pas très nombreux. Hein.
On n'était pas très nombreux. Non, on était une dizaine.
Non, on était une dizaine.
On était une dizaine et je crois. Je crois que personne n'est parti en fait. Et il y a quelque chose ouais, vraiment de, qui prend aux tripes. Et je sais pas si vous avez dû voir des films de Lars von Trier, mais filmés selon le dogme.
Oh, quelle horreur.
Non, mais là, elle n'utilise
mais là, elle prend
ça
ce qui est bien
que
dans
l'image,
le dogme.
En fait. Que l'image rappelle. Il y a que l'image qui rappelle le dogme et qui te permet encore mieux de rentrer.
Non, ce qui est bon dans le dogme, c'est la caméra à l'épaule qui rapproche des protagonistes.
Oui,
ce qui est
Lars
nul,
von Trier,
c'est la prise de son.
Ce qui est nul, c'est Lars von Trier aussi.
Oui, ah, aussi, oui.
C'est
comme
Idiot,
c'est horrible.
Ça va non, un peu trop loin.
Festen, c'était un bon film, mais Idiot, c'est.
En fait, ça va trop loin.
Ce qui gâche tout dans le dogme, c'est la prise de son directe. Et pas de musique.
En fait, il oublie que la musique ça fait partie de l'atmosphère. Et là, dans le film, la musique, tout ça, ça fait toute une espèce d'atmosphère et tu rentres dedans. Enfin bref, moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Et c'est devenu. Le film est devenu quand même un best-seller américain et peut-être
le livre.
Même mondial. Enfin, le livre, oui.
Et par contre, on sait toujours pas hein, si c'est un auteur ou une auteure.
Voilà. Ben, non, le truc,
c'est que
le livre et l'auteur font une sérieuse polémique à première vue. Et en jetant un œil comme ça dans ma chronique, je suis tombée sur un message qui disait Jeremiah T. Leroy Hawks. Point d'interrogation. Et donc il y a une espèce de grosse polémique. Quoi. Est-ce que c'est une affabulation? J'ai lu un message disant une personne disant que oui. Jeremiah T. Leroy, c'est n'importe quoi en fait. C'est une gonzesse, c'est un écrit. Il y a qu'à voir son allure, sa voix, etc. Je peux vous montrer. J'ai un petit bout de photo.
Ah oui, ça c'est radiophonique.
Oui, ouais. Non, mais quelqu'un peut décrire cette personne.
Non, il faut pas oublier
photo, le chapeau.
T'as oublié aussi de.
C'est Michael Jackson.
Oui, en fait, oui, c'est ça. C'est.
T'as oublié de aussi
c'est
de parler
de
Asia Argento aussi, qui est Asia Argento, donc la fille de c'est Dario, hein, ça.
Ouais, je crois que c'est ça.
Donc la fille de Dario Argento. Non, Dario Argento, le réalisateur de films d'horreur bien connu.
Oui, d'accord.
Et donc bien, non mais en fin de compte, elle est toute jeune et elle pratique la provocation.
Toute jeune, elle a 29 ans.
Bah oui, elle est toute jeune. Non mais elle a 29 ans, c'est son deuxième film. Elle pratique la provocation à outrance. Elle répondait aux interviews en fumant, c'est dans le genre clope sur clope et c'est en balançant. Donc en même temps, elle joue avec ça, avec son image de réalisateur, de réalisatrice en laissant croire que la réalisation du film avait été plus ou moins malsain. Enfin, elle joue sur plein de tendances en fin de compte, mais plus par provocation évidemment.
Ouais,
donc il y a tout qui se mélange. Donc il y a le film et il y a les autour aussi.
Oh, oui, le tout bon. Autour. Le,
si c'est pas marketing, c'est pas grave.
Bah, à mon avis, c'est beaucoup plus par provocation pour faire chier que
pour vendre. Donc faut acheter le DVD pour avoir tous les bonus.
Oui, ouais. C'est encore en salle.
Oui, il est encore en salle, ouais, on peut toujours aller le voir.
Où ça?
Pour l'instant, nous on l'a vu à l'entrepôt, il est encore à l'entrepôt. Et il doit être pouvoir s'attraper dans d'autres salles en province. Ici, normalement, il tourne.
Ah là là, la
et
province.
Alors, juste pour
et
voir
c'est
les, pour pouvoir les le jeu des gamins, c'est vraiment extraordinaire. Les gamins jouent super bien.
Le jeu des gamins, ouais, super bon, vraiment. On comprend pourquoi c'est beaucoup plus facile de jouer quand on est gamin.
Et s'il y a si vous aimez en fait les films indépendants américains, je sais pas, par exemple, je sais pas, Elephant, Ghost World, Lillian, 13, je sais pas si ces films vous disent quelque chose, mais bon, je pense qu'au moins Elephant, oui. Et
c'est un éléphant, c'est ça?
Elephant, le film de Gus Van Sant, Palme d'Or l'an dernier. Non. Le massacre dans le lycée.
Ah oui, je sais que. Mais moi, j'ai vu Bowling for Columbine, mais j'ai pas vu Elephant.
Ah voilà. Et en fait, bon, c'est tout un paquet de films qui donnent une autre image de l'Amérique, en fait. C'est l'Amérique que j'ai envie de dire que j'ai aimé, enfin, quand j'étais là-bas, quoi. Des gens qui étaient vraiment. Qui étaient vrais, qui étaient pas. Oui,
des
bon
des parents qui violent leurs enfants, les abandonnent, des trucs cool, ouais.
Non, mais enfin, bon.
Ils sont pas que heureux là-bas, donc tant pis pour leur gueule.
Des gens un peu plus bruts. Des gens qui ont rien à voir avec l'image qu'on nous renvoie, la fausse image qu'on nous renvoie d'Hollywood, quoi. C'est ce qui
Ça dépend quel film aussi.
Ouais, mais si tu veux, il y a quelque chose de plus vrai dans ces films-là. Enfin, si tu veux, dans ces films-là, moi j'ai vu l'Amérique dans laquelle j'étais, quoi. C'est le Ploukland, quoi, si tu veux.
Moi, j'ai pas l'impression que dans quelques cinémas que ce soit, on nous montre l'Amérique du milieu comme.
Je t'assure
une,
que c'est
une expression à la mode, c'est-à-dire soit on nous montre sur Hollywood des types extraordinaires, c'est magnifique, ou des gangsters, et puis l'indépendant, on nous montre la déchéance absolue, le milieu.
Mais sans être la déchéance absolue, si tu veux, au-delà.
N'existe. Non, c'est pas la déchéance absolue. Là,
oui,
le,
bon, celui-là
gamin,
c'est
quand
très
même.
Fort la déchéance.
Non,
mais
ça
bon.
C'est très fort, mais dans beaucoup de films, on montre plutôt un mal-être. Évidemment, quand tu veux montrer un mal-être d'un village, d'un endroit, ben. Tu vas accentuer sur le truc.
Non, mais tout à fait.
Tu vas mettre le doigt là où ça fait mal, normal. Mais évidemment, sans parler de là où c'est vraiment un jusqu'au boutisme, mais il y a beaucoup d'autres films où on montre plus la.
Dedans, t'as une atmosphère en fait de ce qu'est l'Amérique. Il n'y a pas de maquillage en fait.
Un quotidien plus.
Oui, vraiment plus proche avec déjà l'environnement, c'est-à-dire on nous montre les cités que nous on a vues. Tu sais, enfin, ces baraquements là, les soirs où tu regardes dehors, il n'y a rien qui se passe.
Oui, il n'y a pas de maquillage. Si tu veux, tu trouves vraiment. Tu verrais les balancelles. C'est là que tu découvres que les balancelles, etc., les gens
donc
qui sont bien
derrière la télé, c'est ça. Des gros, alors
pas nécessairement, en fait. Tu sais, moi, quand j'étais là-bas, j'étais très étonnée.
Non,
il n'y avait
déçu.
Pas si gros que ça.
J'ai
il n'y avait pas tant gros que ça, en
non,
fait.
Bah
moi,
non, c'est vrai, il n'y en a pas, dis
moi,
donc.
Quand j'y suis allé, j'en ai vu beaucoup, quand même.
Dépendant de l'endroit où t'es, si tu veux, dans la ville où j'étais, il n'y avait pas
tant de...
Les grandes villes, c'était quand même...
T'étais dans la côte est.
Il ne vaut mieux pas se faire marcher sur les pieds, d'une manière générale.
Non, mais t'étais dans la côte est, alors que dans la mairie vraiment profonde, si tu veux, il n'y a pas tant de gros que ça. Enfin, des gros du cerveau aussi.
Là. Où on était à où Flo était à Rochester, il y avait pas de gros.
Il y avait pas de gros.
Enfin pas plus qu'ici,
pas
quoi.
Plus,
mais Rochester, c'est le tiers monde des États-Unis aussi, ils ont pas mangé
fait,
et tout.
Je sais pas. Si il y avait autant de trucs de merde.
Et les autres villes que j'ai visitées, non, il y avait pas tant de gros que ça, si tu veux. C'était vraiment
ça,
les gros
surpris.
sont situés sur certains points.
Bon, alors c'est ta conclusion, il y a pas tant de gros que ça aux États-Unis.
Bon film. Il y a surtout que ce film, il faut aller le voir.
Je crois que je suis pas la seule à avoir fait de la mécanique parmi nous. Mais c'est important de signaler que c'est normal que les gros soient situés en certains points, parce que ça, c'est la loi de la gravitation universelle.
Ouais, ils sont par
terre. Les gros s'attirent, quoi. Il y a une force d'attraction.
Les gros s'attirent.
Ouais. Des cornes et des pieds fourchus.
Il y a un effort qui est proportionnel à la masse et inversement proportionnel au rayon au carré.
Les gros s'attirent, mais quand t'es gros, c'est pas facile non plus.
Non, c'est moins facile. C'est vrai.
Non, mais d'un autre côté, c'est vrai, je reconnais que les gros que j'ai vus là-bas étaient quand même beaucoup plus gros que nos gros en France.
Bah, je vais prendre un demi, s'il te plaît.
No je comment. Pense que c'est une bonne conclusion sur les films et l'amour. Hein.
Donc, eh bien, un tonnerre d'applaudissements pour Flo. Bien maintenant, nous allons parler de l'amour à la télévision.
On va
n'est-ce pas? Donc évitons les sujets sur l'école et tout ça.
Hein. Non, le sujet c'était l'amour.
Voilà. Donc tu fais chier toi, c'est Numa, c'est ça hein.
Non.
Non, d'accord. Donc vas-y, excusez-moi.
Donc nous sommes au mois de février, en plein cœur de l'hiver. Les fêtes de fin d'année sont déjà loin derrière. Le printemps se fait encore attendre, surtout ces jours-ci, on était quand même plus sous la neige.
Il neige, hein.
Mais ça caille, hein. Il ne se passe donc pas grand-chose en cette période, la déprime guette les Français, donc il fallait trouver quelque chose. Bah,
surtout s'ils sont allés voir le film de Flo, là.
Non, mais même, on sait qu'au mois de février, les Français, enfin même beaucoup de gens, dépriment. C'est la sortie de l'hiver. Donc il fallait trouver quelque chose pour animer tout ça. Et surtout, il fallait surtout trouver une bonne raison pour nous faire dépenser de l'argent. Donc le mois de février est le mois de l'amour.
Et grâce à quoi ?
La Saint-Valentin.
Parce que personne n'en a parlé quand même, je suis surprise. Effectivement, grâce à la Saint-Valentin, évidemment.
Moi, j'ai oublié, je voulais lui offrir.
C'est qu'on n'est pas
de lessive. Et ouais.
En fait, il a pas eu sa lessive avec sa paye. Alors,
nous ne sommes pas très assidus sur la Saint-Valentin.
Non, pas trop.
Ah, et pourtant, donc la Saint-Valentin,
parce que t'as
c'est.
Oublié que janvier, c'est le mois des soldes, et puis donc février, faut trouver un autre truc pour vendre, c'est ça ?
Bah voilà,
ouais, bah, c'est bon, vendre tous les gadgets
soldes,
que t'as
et puis
pas
après,
vendu.
Il faut trouver une
c'est
autre
que,
merde.
Effectivement, le 14 février, enfin la Saint-Valentin, c'est donc le 14 février. C'est très difficile d'y échapper.
De quelle année ?
Même si ça nous intéresse pas, de toute façon, on peut pas y échapper. Tout le monde
moi,
sait.
Moi, j'ai déjà essayé de sauter du 13 au 15 et j'ai pas réussi. Hein.
Que la Saint-Valentin, c'est le 14 février. Et
puis on voit des cœurs partout.
Voilà, et donc, bah, les
même
premiers.
Chez le
les premiers à nous rappeler que c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin, attention, il faut acheter des cadeaux, bah, c'est les médias et notamment la télévision hein, qui nous le rappelle
ils sont payés.
Au moins 15 jours avant. Non, ils y trouvent un intérêt détourné forcément.
Bah, ils parlent d'un truc, s'il se passe rien, ils parlent de la Saint-Valentin.
Déjà, ils parlent d'un truc et puis bon, la consommation en général. Donc effectivement, il nous rappelle à l'ordre, attention, c'est le 14 février, et notamment par la publicité. Hein, 15 jours avant, on note quand même une recrudescence des publicités pour les parfums, par exemple. Mmh. Donc,
comme par hasard.
On se dit, tiens,
ça, c'est toujours
il se passe quelque chose.
Alors
il
qu'en plus, moi j'en ai,
de...
j'en ai goûté plusieurs, des parfums, c'est pas bon.
Non,
mais ça saoule.
Oui, mais bon,
c'est pas bon.
Non, mais c'est pas fait pour ça.
Ah bon ?
Puis moi j'aime pas quand mon offre, j'ai l'impression que je sens pas bon.
Ouais,
ah.
C'est le gros problème.
Je t'en ai jamais offert pourtant.
Non, c'est vrai.
Non, mais c'est bon, il en a déjà 2-3 à lui dans l'armoire.
Le pire, c'est quand on t'offre des gels douche.
Je peux dire qu'on s'en fout de ce qu'il met ou.
Oui.
J'ai le droit ?
Vas-y.
Je pense.
Non,
oui.
Mais franchement, les cadeaux de Saint-Valentin, c'est quoi ? C'est... Oui, alors, c'est les parfums, c'est. Alors, pour les hommes, ça sera des trucs de maroquinerie à la limite. Une cravate, alors ça va vachement bien, tiens.
Des chaussettes.
Ouais, une cravate de notaire, c'est bien ça.
Non,
ouais.
ce qui est le plus terrible, c'est que pour les femmes, les cadeaux de Saint-Valentin, ça peut être comme la fête des mères, un aspirateur,
un robot.
Pas
ça,
de pub.
C'est
un
vachement
baril de lessive.
Sympa.
Ou alors, la fameuse friteuse. Tiens, je t'offre une friteuse, ma chérie.
Ouais, ça veut tout
j'aime
dire.
J'aime pas trop les frites.
Ça veut tout
oui,
dire.
Oui, mais moi, j'aime ça.
Voilà, c'est le couple plan-plan
tu peux
installé.
Une bière aussi, c'est bien.
Il manque plus que les pantoufles et le chien. Mm. Enfin bref, même si vous regardez pas la publicité ou si vous n'êtes pas très observateur, c'est pas grave, la télé trouvera d'autres moyens de vous rappeler que c'est la Saint-Valentin qu'il faut pas oublier. C'est par exemple par les JT, notamment le 13h, hein, parce qu'apparemment ils trouvent rien d'autre chose à nous dire que le temps qu'il fait ou nous rappeler que c'est la Saint-Valentin. Mais alors ce qui est assez marrant, c'est que tous les ans ils nous en reparlent hein, de la Saint-Valentin, le 13 ou le 14. D'ailleurs c'est assez navrant parce que le 13 ils oublient quand même que c'est la Saint-Béatrice. Je trouve qu'ils pourraient en parler quand même, c'est vachement important.
C'est
pour toi,
c'est ma maman.
Hein
ouais, et c'est ma maman aussi hein, quand même.
Alors, il faut signaler...
Toi qui t'appelles Béa, t'as un...
Je comprends pas moi qu'ils fassent pas une annonce au 13h.
Il faut signaler une journaliste qui elle n'oublie jamais la Sainte-Béatrice. C'est la journaliste de la météo.
Schoenberg.
Non, Schoenberg, elle est pas
à la
météo.
Elle
va
à la
être vexée.
Si, si, elle le dit, elle le dit.
Il
a neigé partout en France.
Aujourd'hui, c'est la Sainte machin.
Sauf cette année. Et pourquoi cette année ils n'ont pas dit que c'était
c'est
la
parce
Sainte
qu'il y a
Béatrice
pas eu le 13 février, ils sont passés directement du 12 au 14.
Non. Et le 13 février, c'était un dimanche. Et c'était le dimanche de quoi ?
Des déportés, là, non ?
Non.
Les Rameaux. La Shoah ou je sais
oh,
pas,
bah
pas,
voilà. Alors, c'est pas les Rameaux, c'est.
Les Rameurs.
Oh, vous êtes nuls. Je suis bien contente. C'était parce que c'était le dimanche
pour
de carême.
Pour moi, c'était la Sainte-Béatrice.
C'était pas la Pentecôte parce qu'on n'était pas à Vic.
Non, c'était le dimanche de carême.
Ah oui, c'était le dimanche de carême.
Et c'est pour ça que j'ai pas eu ma fête cette année.
Notre ramadan.
Lamentable, lamentable.
Notre ramadan à nous.
Donc
gueule,
en fait,
ta
ils
gueule,
sont.
Moi, ma fête, je l'ai jamais parce que ça tombe le même jour que Noël. Alors c'est toujours Noël. Et puis
Emmanuel,
moi, voilà.
Noël, hein.
Donc moi, j'en ai marre. C'est tous les ans que moi, j'ai pas droit à ma fête.
Oui, mais moi justement, j'ai droit tous les ans.
Alors toi, tu peux y avoir droit une fois.
J'étais habitué. Et
c'est
là,
le jour où tu fais pas la fête non plus de l'autre côté.
Surtout qu'on sait que c'est la veille de la Saint-Valentin quand même. Donc puisqu'ils n'ont pas annoncé ma fête, les journaux télé ont annoncé la Saint-Valentin. Et ce qui est assez drôle, c'est que donc tous les ans ils le font, plus aux 13h qu'aux 20h quand même. Et tous les ans ils nous donnent une explication. Mais ce qui est très drôle, c'est que ce n'est jamais la même. d'explication. Alors, une année, ça vient, c'est l'origine de la Saint-Valentin, fête des amoureux, c'est italien. L'autre coup, ça vient du XVIe siècle en France. Enfin bref, moi, je ne les mettrai pas d'accord, parce qu'en fait, il semblerait que les raisons que, pour laquelle, lesquelles la Saint-Valentin soit la fête des amoureux, alors que Saint-Valentin, Valentin, c'est un prêtre romain, ou je sais pas quoi, un saint romain, et c'est devenu la fête des amoureux, et ben on ne sait pas pourquoi. Donc ça sert à rien de nous dire des conneries différentes tous les ans. Il ferait mieux nous dire qu'en fait, ils savent pas pourquoi c'est la fête
c'est
des amoureux.
C'est peut-être pour remplir les stations de ski, parce qu'après tout, il y a plein de trucs qu'il faut pour remplir les stations de ski à cette époque.
Effectivement, fait des recherches sur ce sujet, et je l'ai beaucoup regretté parce que j'ai effectivement rien trouvé d'intéressant.
Non, ils savent pas.
Des
raisons
dizaines
inconnues.
D'explications différentes, ouais. Le chevalier italien, voilà, machin, truc, bidule.
Et c'est jamais pareil, mais tous les ans,
ma grand-mère en short, à Nice, sur les galets, enfin des trucs qui n'ont absolument aucun sens.
Il n'y en a pas une qui est
non,
plus
c'est tout minable.
Hein, c'est vrai, parce que si on avait une jolie, on l'aurait gardée.
Mmh. Alors moi, j'en ai une d'explication. C'est que la Saint-Valentin, était proclamée fête des amoureux et que effectivement, c'est au mois de février, ce n'est pas un hasard, c'est que c'est une fête commercial, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, comme
après
d'habitude, pour nous faire dépenser de l'argent.
Non, non, mais
comme la fête des mères, et encore la fête des mères, elle avait quand même une raison, bon, mais comme la fête des grands-mères, la fête des pères qui a suivi la fête des mères, il faut aller trouver une occasion pour donner de l'argent aux fleuristes. Il y avait qu'à voir, en plus ça marche, il y avait qu'à voir la queue lundi soir chez les fleuristes à Paris, c'était assez hallucinant. Les gens sont moutons quand même.
Oui, mais c'est une époque, je me souviens, c'était pas vraiment une fête de l'argent, enfin une fête du fric ou autre, si tu veux. Je me souviens, c'était le moment où tu pouvais te permettre d'éventuellement prendre un râteau. Enfin, tu prenais pas un râteau, t'envoyais une lettre à quelqu'un et tu avais,
ça, c'est très anglo-saxon.
Avec un peu de chance, une réponse.
En France, ça marche pas tellement comme ça. C'est très anglo-saxon, effectivement. Il y a un jour comme ça parce qu'ils aiment bien ce genre de choses. Et bon, effectivement, le jour de la Saint-Valentin, ils vont envoyer des boîtes de chocolat en forme de cœur à quelqu'un qu'ils n'ont jamais osé draguer parce que voilà, ils sont couverts de la Saint-Valentin.
Ils peuvent et là, avec un peu de chance, la personne s'adresse à ton voisin et hop.
Il faut en envoyer plein pour essayer.
Voilà, c'est ce que les ricains font. Ils en envoient plein. Ça y est, peut-être une petite chance. Ouais. Ça, c'est pas très français non plus, je trouve. Les Français fêtent la Saint-Valentin s'ils sont en couple, et ça fait déprimer l'autre moitié qui sont célibataires toujours à la même date.
Ouais, c'est vrai, nous on a bien fêté, hein. On s'est gouré de jours parce que je crois que c'était le 14.
Mais c'était le 14.
C'est le 14, ça reste
sur
le 14.
Tatami, en fait, si tu veux, enfin, on a baisé chacun de notre côté. Et on se plante.
Enfin, en fait, ça s'est très bien passé.
Disons que moi, je suis ennuyé entre la Saint-Valentin et la journée de la femme. Je sais pas quand lui dire que je l'aime, parce que je vais pas le dire deux fois par an non plus.
Bah non.
Ça fait beaucoup.
T'as raison.
Puis on dit jamais 203, alors après, il va falloir faire une troisième fête.
Moi, je trouve tout simplement ridicule qu'il y ait un jour où il faut absolument, c'est genre une obligation, c'est si tu l'oublies, tu te fais tuer. Le jour où il faut dire je t'aime, c'est comme la journée des femmes d'ailleurs, parce que c'est pas la journée de la femme, c'est la journée des femmes. Attention, les féministes sont à cheval là-dessus.
Les chiantes et tout.
De ramener notre condition à une journée, quoi, c'est hallucinant. L'aberration.
Ah, moi, ce jour-là, je fais pas le ménage, hein. Il attend le lendemain.
Bah oui.
Pas forcément. Enfin,
bah moi non plus.
Moi, quand je dis que c'est pas. C'est plus, c'est comme toutes ces journées-là. Je pense qu'elles ont toujours une importance, histoire de ramener d'obliger à ramener le sujet. Parce que
ça serait intéressant si c'était férié.
Enfin, il faut que
déjà qu'on nous en enlève. Alors là, tu rêves.
On aurait le temps de le faire un peu l'amour quand même.
Faut que j'explique plus ou c'est bon. C'est
non, je vois bien.
De ramener le sujet.
Je suis assez d'accord.
Un petit peu de sociologie.
Par exemple, c'est vrai que bon, autour de la table, visiblement, ça marche pas trop mal pour les gonzesses qui sont là. Hein, ça va, ça a l'air d'être assez émancipé. Hein, bande de. Hein.
C'est pour ça.
Là, ça passe bien. Mais par contre, c'est par rapport à tout le reste, donc histoire
je suis
de
assez d'accord.
Le débat pour les endroits où
le problème c'est qu'on a toujours l'impression dans une société
comme
la nôtre que on se sent obligé de créer des journées Ça me paraît vachement superficiel. Je sais pas comment l'expliquer. Je vois ce que je
veux dire. Moi, je balance aussi entre les deux, mais en même temps, je me dis, c'est quand même bien d'avoir un jour où ils se sentent obligés
mais
d'en
si
parler,
c'est après
quoi.
Pour que les 364 autres jours on
dit
je trouve ça extrêmement regrettable quoi.
Voilà, absolument, mais en même temps je me dis que bon, si au moins ils en parlent une fois, sinon ils seraient peut-être pas obligés, ils en parleraient peut-être pas du tout,
certes, mais donc, je crois qu'en France on n'a pas besoin de ce genre de conneries,
c'est pour ça que je balance entre les deux en fait. Donc voilà,
là où si tu veux ça me commence à me faire mal au cœur, c'est quand tu vois les gamins après qui vont se ruiner dans des merdouilles etc. à offrir parce que maintenant, il faut offrir quelque chose. C'est comme
ah, mais il y a des gonzesses qui sont vexées, hein. Parce que
j'ai entendu à la radio une émission de radio qui cherchait, qui donnait des excuses pour avoir oublié la Saint-Valentin.
Alors c'est une bonne idée.
Ah, c'est bien, ça.
C'est chez mon confrère Arthur, c'était.
Mais n'empêche que pour en revenir justement à mon
très
sujet,
bonnes idées,
je trouve que cette année, on l'a moins subi que habituellement, que depuis quelques années. Je trouve que ça s'estompe un peu.
Mais c'est peut-être passé un truc important dans l'actualité aussi.
Pas forcément.
Non, peut-être que les gens
mais notamment, habituellement, dans mon souvenir, il me semblait que la Saint-Valentin, c'était l'occasion pour la télé, justement, d'avoir un petit événement et donc de faire des émissions spéciales, un prime exceptionnel, c'est-à-dire le prime qu'on retrouve qu'une fois, qui est inhabituel, donc sur l'amour, un truc complètement crétin. Et cette année, il n'y a eu que dalle. Il y a eu juste 2-3 spéciales amour, et notamment pour les jeux télé. Et c'était par exemple Attention à la marche ou le jeu de Arthur, encore lui, à prendre ou à laisser, où là, c'était bien marqué spécial amour. Bon, je ne les ai pas regardés, hein, je travaille quand même.
Et je crois que les amours
c'est
aussi,
tout.
C'était des couples qu'il y avait cette fois-ci.
Bah, les amours,
c'est toujours des
les amours pour la Saint-Valentin, ils n'ont pas fait un spécial Saint-Valentin, ils ont fait leur 100e, merde, j'aurais dû regarder, je sais plus parce que ça fait très longtemps que ça, ils ont fait leur anniversaire.
Ah.
Ça tombait bien, dis donc, hasard ou pas hasard? Je sais pas, je les ai pas comptés, moi, les émissions.
Tu veux dire que cette année, il n'y a pas eu, comme il y avait tous les ans, le petit chose sur le britannique, un peu exubérant, qui était monté, qui avait loué une grue, etc., pour se faire parachuter devant le bureau de sa copine avec un panneau
par exemple. Non, il n'y a pas eu de prime spécial, prime crétin, sur l'amour niaiseux. Mais, c'est, à mon avis, sans doute, que c'est sans doute parce que ce genre de formule ne fait plus recette, parce que maintenant les chaînes misent sur les grands classements, les grands concours ou la télé-réalité. Donc, ça me permet de dévier complètement du sujet. Et effectivement, l'amour ne fonctionne pas vraiment comme formule pour faire de l'onimat. Et c'est pourquoi TF1, le samedi précédent la Saint-Valentin, où ils auraient eu l'occasion de faire un super prime spécial, eh ben non, ils étaient plus préoccupés à placer son Celebrity Dancing. Alors, Celebrity Dancing, c'est une émission qui a fait un petit peu polémique entre TF1 et M6. C'est,
ouais, parce qu'ils ont fait la même chose sur M6.
Voilà, c'est la nouvelle guerre TF1-M6. À mon avis, là, ils sont en procès. Donc, petit rappel des faits.
C'est pas sûr, c'est la même maison.
Mais justement, j'ai voulu vérifier et j'ai pas retrouvé. Il me semble que de toute façon, les deux, ça doit être en démol. Mmh. En tout cas, sur celle de TF1, sûr. Donc, petit rappel des faits quand même, sur cette petite guerre, cette dernière petite guerre M6-TF1.
Tout petit.
Il y a 3 ans, M6 souhaitait adapter une émission de télé-réalité qui cartonnait en Grande-Bretagne ou au Canada au fur et à mesure des années, qui consistait donc à faire participer à un concours de danse, quelques people. Non, c'est pas du tout la spécialité, et le tout coaché par de véritables danseurs. Mais voilà qu'il y a quelques semaines, TF1 veut en faire autant, prétextant que eux ils avaient le projet aussi dans leur carton depuis quelques temps. Donc ça y est, la guerre est ouverte, mais mis à part la date des mises en route des projets, ce qui compte pour les chaînes, c'est ce qui compte pour le public, hein, c'est la diffusion. Donc, du coup, ils se battent sur la diffusion. Lesquels vont passer le truc en premier, parce que c'est la seule chose qui est importante, oui, parce qu'une fois qu'il y en a un qui l'a diffusé, c'est qui diffuse après, la chaîne qui diffuse après, bah forcément peut être taxée de plagiat.
On peut peut-être parler un petit peu du programme, c'est ils invitent des célébrités pour faire un concours de danse.
Alors moi j'ai un petit peu
ça, Béatrice l'a dit, hein.
Oui, moi j'ai un petit. Alors,
je
j'ai
le répète
petit...
pour.
D'accord,
parce que les gens soient sûrs.
Le principe général était la même chose, faire danser en fait des people.
Donc ça n'a absolument aucun intérêt, on est bien d'accord. Hein.
Oh bah de toute façon.
Mais c'est pas là que les people ils dansent entre guillemets en Guyane alors. Hein.
Des people c'est quoi c'est des gens en fait.
Oui en anglais.
C'est des gens soi-disant connus. Mais en fait maintenant les people c'est
et
marrant,
sur
c'est
le retour.
Parce que,
hein.
En fait
voilà.
Moi,
c'est que des has-been ou des gens qui sortent de la télé-réalité. Parce c'est
que
ça les people.
Ce que j'ai
maintenant.
Constaté maintenant à chaque fois que je lis le journal ils me parlent de people puis à chaque fois je les connais pas.
Bah voilà.
Ben voilà, parce que ceux que tu connais, ils vont pas se faire chier à aller faire un concours de danse.
Exactement.
Donc, bah non, parce que ceux que tu connais, ils sont dans les téléréalités, donc ils vont pas encore au concours de danse d'anciennes stars de téléréalité.
Bah oui, c'est normal.
C'est un cycle, quoi.
Sinon,
c'est comme l'eau qui coule.
Il y a aussi ceux que tu connais qui sont chroniqueurs chez Quoique, mais tu vois, quand même.
Oui, mais nous, on fait ça gratuitement. À noter.
Et puis, on n'est pas encore pipo. Donc alors, l'émission de la 6, ça s'appelait Duel de Stars. Elle a été diffusée le 15 février, un mardi soir, alors que celle de TF1...
Moi, j'ai vu la fin, Loana avec une petite tenue en train de danser.
Ouais,
c'était
mais alors
magnifique.
Franchement, moi j'en ai
enfin,
vu...
Enfin, la petite tenue, hein, Loana en train de danser.
J'en ai vu quelques courts extraits, parce que de toute façon, je n'aurais pas été capable de supporter plus, parce qu'il y avait déjà Mia Fry, la chorégraphe que maintenant tout le monde connaît, avec un poulpe sur la tête. Vous voyez de qui je veux parler mm-hmm.
Une vous sorte
pas,
de.
Vous n'avez
de...
pas vu podium.
Une sorte de Manu Katché, mais en fille.
Oh, elle est épouvantable. Elle a été révélée au public parce que bon, elle est danseuse, elle est chorégraphe depuis longtemps. Elle a été révélée au public par la première édition
Popstar.
Donc en 2000 hein, ou 2001 sur la 6. Par son caractère épouvantable et de effectivement maintenant on la revoit dans les soirées People ou dans les émissions de télé-réalité
alors qu'elle avait pas besoin de ça pour travailler parce qu'elle était déjà très réputée elle était chorégraphe
de toute façon elle est chorégraphe et là elle était donc chargée de faire danser de chorégraphier un groupe de People justement pas lesquels étaient s'il y avait Massimo Gardia que j'aurais pas supporté non plus parce que lui a dansé un hippopotame a dansé merci. Et donc il y avait une équipe fille, une équipe gars, et l'équipe gars était coachée par le mari de Mia Fry, qui est aussi chorégraphe. Alors que celle de TF1...
Qui s'assemble sans manger...
Je le connais pas, lui. Et l'émission de TF1, donc Celebrity Dancing, ça ressemblait franchement à une sous-émission de la Starac, parce que déjà c'était présenté par Nikos Aliagas, qui présente déjà la Starac, et comme chorégraphe, et pour le coacher et pour la chorégraphie, c'était celle de Kamel Wally, donc le chorégraphe de la Starac. Et comme danseur, comme par hasard, pour accompagner les people qui savent pas danser, ils ont mis, donc c'était pas par groupe, c'était par duo, c'était des anciens Star Académiciens, j'ai du mal à le dire, qui étaient bons en danse.
Le niveau ne devait pas être très relevé,
Si, il y en a quand même qui dansent vachement bien. Je dois dire que quand on voit comment elle s'appelle, celle de l'année dernière.
Je ne me souviens même pas de son nom. Donc.
Sophia. Mmh. Elle danse très très bien, il n'y a rien à dire.
D'accord.
Là-dessus, il n'y a rien à dire. Bah, heureusement qu'elle était là parce qu'elle était accompagnée par Vincent McDoom, qui faisait de la figuration derrière. Par contre, TF1, c'était donc par.
Rien.
Oui, c'est...
Rien.
Voilà.
On continue, enchaîne. On n'a pas de temps.
Sur TF1, c'était par couple. Hein, et c'était de la danse de société. Donc, ils dansaient une salsa, un rock. Je trouvais que c'était peut-être un petit peu meilleur niveau danse.
Du fado.
En danse. Non, ils ne les ont pas toutes faites non plus. Que celle de la 6. Mais ce qui était assez drôle, c'est que bon, bah voilà, quoi, c'était une, voilà, un deuxième produit de la Starac. D'ailleurs, même Nikos en est emmêlé les pinceaux, parce que comme c'était en direct, de toute façon, Nikos, roi de la gaffe, roi de la connerie, il nous a quand même souhaité bienvenue sur le plateau de la Star Academy. Bon, il s'est repris après parce qu'il a eu d'oreillette, mais enfin bon. Enfin, c'est du Nikos.
De toute façon, il faut choisir. Hein. C'est soit t'as un cerveau, soit t'as une oreillette. Les deux, après, ça fait interférence.
Bah voilà, bah lui, il a une oreillette et il a un petit peu de mal, hein, quand même. Enfin voilà, c'était franchement pas terrible.
C'est la part que je voulais.
Pour l'instant, je ne sais plus où ils en sont dans les plaintes, parce qu'au départ, c'est la 6 qui a attaqué TF1 pour avoir.
Qui a gagné le concours de danse.
Je sais même pas. Je ne me suis pas tapé en entier, quand même.
Tu t'es pas tapé tous les people?
Non. Parce que Vincent McDoom ou Marcel Mogardia, ça m'intéresse pas. Hein.
Parce que
c'est pas mon genre.
Imagine qu'on va...
Simon Garcia, il est pété de thunes, il connaît plein de gens.
Quelle horreur, mais quelle horreur.
Mais tu le prends, tu le ruines pendant sa nuit dans le noce. Et
mais il a pas de fric, lui, c'est un picassiette, c'était un gigolo quand il était jeune. Il y en a plein dans la jet set, ils n'ont pas de fric. Ils vont justement dans ces soirées-là parce qu'on les invite, comme ça ils ont un téléphone gratuit, ils peuvent manger gratuitement.
On n'en sait rien ce qu'ils font ces gens-là, à part être c'est certainement extrêmement malheureux.
Je veux quand même pas les plaindre, faut arrêter.
Ah non, c'est plutôt un cri de joie. Ils sont extrêmement malheureux, ça rassure quand même.
Bah ouais. Moi je pense que leurs soirées sont moins marrantes que les nôtres, mais bon.
Enfin, en tout cas, ça, c'était encore une guerre stérile entre TF1 et M6, se battre pour une connerie, et comme je le disais tout à l'heure, je les soupçonne même que les deux émissions soient produites par Endemol. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, celle de TF1 sûre, celle de la 6, je sais pas, j'ai pas pu vérifier.
En plus,
TF1 et M6 sont partenaires sur le câble avec une chaîne qui s'appelle TF6. Donc, faut un petit peu arrêter de nous prendre pour des imbéciles, ou alors pas nous le montrer, ils peuvent.
Mais c'est ça,
mais faut pas qu'on le voie, c'est tout.
Mais maintenant, justement, ils
pourraient faire une finale sur TF6 entre les gagnants des deux émissions.
Je sais pas, ils font monter la pression entre les deux, parce que les gens, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont regarder les deux émissions pour comparer. Donc, les deux émissions vont bien marcher. Avec info, ouais. Directeur des programmes, moi. Mais si vous voulez directeur de chaîne, je suis prêt à faire directeur de programme.
Je pourrais peut-être avoir les scores. À mon avis, la 6 a fait une fois de plus un bide. Un mardi soir, en plus.
Ah bah oui, il répète. Enfin bref.
Voilà.
Je pense
donc
que
peut-être
pour le moment,
que.
Fait le mardi soir.
Pour conclure, peut-être que dans une émission future, bah, je vous parlerai tout simplement de Endemol.
Donc Endemol, pour juste petite précision, c'est la maison de production.
C'est la maison de production qui a racheté la maison de production qu'avait créé Arthur et son pote, dont je me souviens plus le nom, mais ils en sont devenus président et vice-président.
Donc c'est
mais
toujours
c'est
la maison
France.
C'est toujours la maison de production.
C'est beaucoup plus compliqué
d'Arthur,
que ça.
D'Arthur et non. C'est beaucoup plus.
Endemol était une maison
on
de production
une
européenne.
On en parlera une prochaine
fois. D'accord.
Parce que ça serait dommage. Pas
donc c'est à conclusion sur l'amour à la télévision. Je commence à avoir du mal, moi.
Ben voilà, il est temps de finir l'émission. On commence à avoir du mal.
Je pense. Donc un tonnerre d'applaudissements. Et bien voilà, Capri c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Très belle chanson d'amour, enfin d'amour, de plus d'amour. Hein. Souvent, c'est vrai, je sais pas si vous avez remarqué, mais les plus belles chansons...
L'amour, c'est quand c'est fini.
C'est, voilà, c'est des désastres amoureux.
Mais parce que
fait.
Quand on est heureux,
c'est
on n'a rien à montrer, on n'a rien à dire.
Ouais.
Bah voilà.
Bah si, t'as des trucs à montrer, mais à ta partenaire.
Mais
enfin,
qu'est-ce qu'il est devenu, lui ?
Ça marche pas.
Bah il est toujours orphelin.
Ah bon, ses parents n'ont pas ressuscité, c'est quoi ?
Non, parce que c'est un petit peu, c'était une sorte de Jean-Luc Lahaye à l'avance.
Vous avez su pour Jean-Luc Lahaye ?
Oui, non, mais
parce qu'il participait à l'émission de TF1, mais depuis, il lui est arrivé des bricoles, dis donc.
Bah,
hein.
Oui.
Il est toujours aussi con, lui. Hein.
Bah,
il lui est arrivé des bricoles avec une mineure, apparemment. Enfin bref. Ceci.
Il est plus vieille que son âge, quoi, comme d'hab.
Tu
alors,
veux
vraiment,
dire qu'il a pas d'oreillette, lui ?
Ceci ne nous regarde pas.
Ouais, moi j'ai rien vu, moi.
Bah non plus j'étais pas là. Donc ouais voilà, bah c'est fini.
Oui.
Bah ouais.
Donc c'était très très bien, une émission très riche.
On a droit au poème ou pas ? On a droit au poème ?
Oui, bah à la fin on a dit.
Ah bon d'accord, pardon. Je croyais qu'on avait droit aussi à une deuxième de la chanson.
Et vive l'amour.
Bah à la fin on t'a dit.
Ah bon, mais l'émission n'est pas finie là.
Mais tout se passe à la fin en fait.
Ah. On fait tout en même temps à la fin.
On aurait dû dire aux gens au début, allez à la fin. C'est là que ça se passe.
Bon alors dis maintenant.
Parce qu'au milieu, c'est chiant, ça va polémiquer sur le théâtre et l'école, la poésie. On va nous parler en étranger, on va rien comprendre.
Elle va nous parler de télé. Hein.
Elle va nous parler d'un film qui donne envie de se suicider. L'autre, elle va nous parler d'Envébol, on va rien comprendre. Donc, il y a deux trucs intéressants.
Le début et la fin.
La chanson et le poème et la chanson à la fin. Tout le reste au milieu, c'est nul.
Oui, je
voilà.
Sais,
hein. Combien 97 minutes 33. Bah, vous avez vraiment rien à foutre d'autre dans votre vie. Voilà, je tenais à vous le dire.
C'est de l'abnégation.
Ah, c'est de l'amour, là.
Ouais, ça
donc, par contre, si vous pouvez parler à vos amis de l'émission, n'hésitez pas. Donc,
vous pouvez faire comme moi, mettre un flyer sur votre bureau dans l'open space.
Ouais.
Oh, j'ai pas de titre.
Pour faire comme moi, distribuer les cartes à tous ceux qui j'en parle.
Bah apparemment ça marche pas, hein. Enfin je dis ça moi comme ça, mais...
j'ai pas de titre.
Donc le poème sans titre, sur l'amour peut-être.
Ou alors je fais comme... Oui, c'est vraiment... je suis sur le sujet aujourd'hui.
T'es sur le sujet ?
Oui.
Donc tu parles... c'est un poème sur les tabourets alors donc...
Non, sur l'amour.
Ah, décidément, faut qu'on arrête, vas-y.
Oui, il faut pas faire de blanc à la radio, Numa.
C'est un peu long.
Non, c'est génial.
Surtout qu'on boit du rouge.
C'est génial, les blancs. J'ai donné de l'amour. J'ai donné de l'amour à celle que j'aime. Elle m'en a donné aussi de l'amour. Je lui ai donné de l'amour, tout mon amour. Elle est morte, mon amour. Je lui ai donné trop d'amour au rat.
Et bah tu sais quoi, on dirait du Philippe Torreton.
Oui.
Merci.
Non non, très bien, un tonnerre d'applaudissements. Ouais. Allez allez allez. Enfin moi je dis ça à chaque fois et j'applaudis jamais. Mais je peux pas parce que bon je fais la technique
oui,
et tout, j'ai
pas
beaucoup
de
boulot.
Non, c'est compliqué.
Vous vous rendez pas compte. Donc voilà, non mais c'était
pour taper.
C'était très très bien. Oh là là, le bruit dans le micro, l'ingénieur du son va gueuler encore. Donc, bah, comme d'habitude, c'est chiant à force, hein, toujours. On va encore remercier Yann Beaujoin pour ses jingles.
J'ai encore oublié son nom de famille, Yann Beaujoin.
Beaujoin,
c'est bien aussi Beaujoin.
Non, oui, mais c'est Beaujoin.
C'est Beaujoin.
Ouais, mais faut bien.
Et je me permettrai aucune réflexion sur Beaujoin, enfin bref. Hein, sacré Yann. Le thème de l'émission prochaine, on sait pas encore. Hein. C'est sur
la pizza
et en démol.
Et on est
sur en démol.
Non, je sais pas.
Sur
démol.
Sur la chanson, ça va être les cheveux blancs.
C'est quoi ? Non, c'est celle d'avant, Flo.
C'est
franchement, quand on voit
Sylvie Lavry. Donc trouve-moi.
Donc
ça, c'est le titre de la prochaine chanson.
Les blanchisseries.
Voilà. Donc sur les prochains thèmes sur les blanchisseries.
Super. Quand on voit que quand le thème marche. C'est l'amour, donc un thème assez ouvert, il y en a quand même 2 sur 4 qui font hors sujet. Je me dis que sur un thème
non,
genre les Lavry,
tonton dans mon film était plein d'amour.
J'ai
enfin,
dit
2 bon,
sur 4, j'ai pas dit qui.
Oui, tout de suite, tu te sens visé.
Je sais pas, vous avez eu l'air de pas bien voir la part d'amour qu'il y avait dans mon film.
Si, on comprend ton
dans
ton...
son film, l'autre.
Bah, dans mon film, le film que je présentais, quoi.
On comprend tes concepts amoureux, tu es une sacrée perverse quand même.
Moi ? Enfin,
oui, oui. Hein, Numa, qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Moi, je pense pas.
Ouais, d'accord.
C'est super dangereux.
C'est vrai.
Quand on a une oreillette.
Ouais. Donc bon, ça savonne. Nous allons finir l'émission.
Peut-être.
Est-ce que vous voulez qu'on la finisse encore par
la
blondasse ?
Oui.
Ça va devenir une coutume à force deux fois dans la même soirée, ça fait beaucoup, mais bon, tant pis pour vous. Donc, eh bien, messieurs, dames, au mois prochain, donc en mars 2005, un jour.
Voilà.
Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Au revoir.
Ma blondasse, ma chaudasse, ma cagnasse, ma pétasse, ma grognasse, ma fadasse, ma radasse, ma poufiasse, ma petite chiasse, ma connasse. Ma salope, ma cocotte, ma grosse chope, ma cyclope, ma grosse loque. Ma grosse cloque, ma varlope, ma petite clope, ma chochotte, ma petite chiotte. Ma louloute, ma petite croûte, ma choucroute, ma chouchoute, ma moumoute. Mon autoroute, ma glougloute, mon goutte à goutte, ma ragoutte, ma filoute.
Ma petite pute, ma cahute, ma turlute, mon parachute, ma petite flûte, mon scorbut, ma petite brute, ma dispute, ton hypercute, mon occiput. Blonde à chaudasse, cagnasse, pétasse, grognasse, fadasse, radasse, poufiasse, petite chiasse, connasse. Salope, cocotte, gros chope, cyclope, grosse loque, grosse clope, varlope, petite clope, chochotte, petite chiotte. Lolo, petite croûte, choucroute, chouchoute, moumoute, autoroute, glougloute, goutte à goutte, ragoutte, filoute. Petite pute, cahute, turlute, parachute, petite flûte, scorbute, petite brute, dispute, hypercute, occipute. Le temps que l'on se connaît, les mots d'amour sont tous surfaits. Je t'aime.